En fait, on admet tous qu'on a des discriminations sensitives qui sont différentes, on a des perceptions qui sont différentes, et ça aide à d'abord à nous rendre plus humbles en tant que prof.
Carrément.
C'est-à-dire que voilà, on n'est pas différent, on n'est pas meilleur, on n'est pas moins bon, on est différent. Et c'est cette perception, moi j'ai beaucoup d'élèves qui me disent au début, je suis un peu perdu parce que vous dites quatre choses différentes. Prends la notion de l'un, celle qui te parle le plus, et développe-la.
Bonjour et bienvenue dans Soignants Soignés, le podcast dédié à la santé, l'ostéopathie et au bien-être. Je suis Baptiste Blanchard, ostéopathe passionné, et chaque épisode est une plongée dans les mystères du soin, la guérison, du bien-être et du développement personnel. Rencontrez avec moi des thérapeutes visionnaires, des sportifs, des patients aux histoires extraordinaires, tous unis par le désir de comprendre ce qui nous rend en bonne santé. Préparez-vous donc à explorer des approches innovantes et à élargir vos horizons sur la santé intégrative avec Soignants Soignés. Chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode captivant de Soignants Soignés. Je suis enchanté de vous présenter aujourd'hui une conversation riche et instructive avec un thérapeute passionné, Guillaume Aubierne. Guillaume, kinésithérapeute puis expert en thérapie manuelle selon la méthode Poyer, partage avec nous son parcours professionnel et les enseignements qu'il a tirés de son expérience aux côtés de Maurice Poyer en personne, l'un des grands noms de la thérapie manuelle. Au cœur de cette discussion, nous plongeons dans la méthode Poyer et son approche axée sur le ressenti du mouvement respiratoire primaire. Guillaume nous explique comment cette méthode utilise des techniques spécifiques pour influencer positivement le corps et l'esprit, tout en exploitant les incroyables capacités du crâne. Nous découvrons comment le développement du ressenti en tant que thérapeute manuel peut être une clé pour une pratique plus profonde et plus efficace. Guillaume met des mots sur ses sensations complexes, ce qui permet d'éclairer la compréhension et l'application de ses concepts. De plus, nous explorons la place de l'émotionnel dans sa pratique, ses réflexions sur l'intuition, et comment il réagit face aux échecs thérapeutiques. Il nous fait également part de ces quelques cas exceptionnels qu'il a pu traiter, comme par exemple un cas de cécité quasi complète. Que vous soyez professionnel de santé ou simplement curieux d'en savoir plus sur Guillaume et la méthode Poyer, cet épisode vous offre une plongée captivante dans ce monde de la thérapie manuelle et de la médecine intégrative. Préparez-vous à une conversation stimulante et inspirante, installez-vous confortablement, et on se retrouve tout de suite avec Guillaume Aubierne. Salut tout le monde! Salut Guillaume.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Abonnez-vous.
Merci beaucoup de m'avoir reçu toute cette matinée dans ton cabinet à la Seyne-sur-Mer, où on a pu voir quelques patients à travers la méthode que tu pratiques, qui est la méthode Poyer.
Oui.
On va pouvoir pas mal aborder ce sujet au cours de la discussion, puis parler aussi de ta vision du soin, de la santé et de ta façon de travailler. D'abord, je fais toujours un mini-jeu pour apprendre un petit peu à te connaître. Je vais te proposer deux propositions, deux mots. Tu en choisis un des deux. Et si tu veux, tu peux mettre une petite explication de ton choix. Pour commencer, est-ce que tu es plutôt chien ou chat ?
Chien.
Ouais, t'as déjà eu des chiens ?
Ouais.
Jamais de chat ?
Si, j'ai des chats.
Ouais.
J'adore les deux. Mais j'ai commencé à soigner quand j'étais très jeune sur des chiens et j'ai une petite préférence pour le chien.
Ok, tu soignes des chiens ?
Oui, encore aujourd'hui.
Trop bien.
Faut pas le dire, mais j'en soigne.
Génial, peut-être qu'on rabordera ça un peu plus tard. Est-ce que tu es plutôt ville ou campagne ?
Campagne.
Ouais. Tu vis là ?
Je vis en ville parce que. Mais aujourd'hui, je rêve d'aller vivre à la campagne. Je rêve de me retirer un peu de l'agitation, en fait. Plus je vieillis, plus j'aspire à une certaine forme de tranquillité.
C'est souvent comme ça que ça se passe en
Exactement.
Général. Très bien. Est-ce que tu vas être plutôt télévision, Netflix ou livre ?
50-50. J'aime lire et j'aime Netflix.
Ok.
Et j'aime YouTube surtout.
Ouais.
En fait, YouTube, oui. J'apprends beaucoup de choses sur YouTube. Je regarde énormément YouTube. Je suis abonné à plein de chaînes de plein de choses. Et voilà. Mais j'aime lire aussi. J'ai toujours aimé lire.
Ouais, c'est vrai que avec YouTube, on a maintenant une bibliothèque d'informations infinie.
Impressionnant, impressionnant.
Très bien. Est-ce que tu vas être plutôt à écouter la radio ou des podcasts ?
Plutôt radio, mais j'aime les podcasts.
Top. Ici, t'es plutôt pain au chocolat ou chocolatine ?
Pain au chocolat.
Moi aussi, ça me va. Est-ce que tu vas plutôt être mer ou montagne ? Évidemment, ici, on est juste à côté de la mer.
Mer.
Ouais.
Je suis fils de marin, mon père était marin et j'ai toujours aimé la mer, ouais. J'habite devant la mer.
Ouais.
Oui.
Et tu me décrivais tout à l'heure que tu vas souvent t'y baigner matin, soir.
Matin et soir.
Tu t'y retrouves bien. Parfait. Voiture ou moto ?
voiture, j'aspirerais bien à la moto, mais j'ai pas mon permis. Et du coup, je suis en voiture.
Ça sauve des vies de pas avoir le permis moto.
Mais surtout, je fais beaucoup de vélo. J'ai remplacé la moto par le vélo.
Est-ce que t'es plutôt sport collectif ou individuel?
Les deux. J'ai fait beaucoup de rugby et j'ai fait beaucoup de sport individuel et de sport collectif, j'ai fait les deux. Okay. J'aime beaucoup les deux. Mais je suis à regarder du sport à la télé, je suis un passionné de rugby, donc plutôt sport collectif. Ouais.
Ok, t'as fait quoi comme sport individuel?
Je fais du vélo, un peu de tennis, je fais du golf, j'ai fait de l'athlétisme. Et puis comme sport co, j'ai fait un peu de hand et beaucoup de rugby.
Ok, top. Est-ce que tu vas être plutôt cocktail ou bière?
Bière.
Bière ? Ok, top. Merci pour cette première petite présentation personnelle.
De rien, je te remercie.
Maintenant, pour approfondir un peu plus et apprendre à te connaître, je te pose la question, qui es-tu, Guillaume Aubryne ?
Alors, je m'appelle Guillaume Auburn, j'ai 58... Auburn, voilà, c'est irlandais comme nom, c'est imprononçable. Et j'ai 58 ans, je suis papa de deux enfants. Alors, je le précise parce que c'est excessivement important pour moi, ça a été... le plus important de ma vie, même avant l'ostéopathie. Et pourtant, c'est pas rien, mais ça a été très important pour moi. Donc, je suis papa de deux enfants qui ont 29 et 27 ans. Et voilà. Et sinon, j'enseigne. Alors, j'ai fait kiné à Marseille il y a bien des années. Et j'ai fait la méthode Poyer quasiment dans la foulée de mes études de kiné, deux ans après la fin de mes études. J'ai été choisi par Maurice Poyer pour enseigner à sa place juste après mon diplôme. Donc j'ai eu cet immense honneur de lui succéder. J'ai enseigné 8 ans à Concarneau. Et depuis 25 ans, j'ai monté ma première école. On va fêter les 25 ans du COTM où j'enseigne.
Génial.
Et puis j'ai monté ensuite une structure qui est réservée à des ostéos, où j'ai été seul pendant une quinzaine d'années. Et maintenant, je suis associé à un ami à moi, Greg, qui est à Grégory Planet, qui est à Valence, et on enseigne maintenant la méthode Poyer, mais adaptée pour les ostéopathes.
Ouais, Grégory d'ailleurs, qui a été aussi une source d'inspiration pour ce podcast Soignant Soigné que j'ai créé. Il a son podcast qui s'appelle Le Cabinet d'ostéopathie, qui d'ailleurs, un peu dans le même principe, interview souvent des ostéopathes, un peu axé aussi sur le côté recherche, qui est passionnant. Je vous invite à l'écouter. Est-ce que tu peux nous décrire, Guillaume, un peu plus ton parcours professionnel?
Alors,
d'où c'est venu? Comment ça a commencé?
J'ai eu ma première sensation ostéopathique, si on peut appeler ça comme ça, quand j'avais 14-15 ans, sur un chien qui avait été percuté par une voiture. J'adore les animaux. Du coup, je me suis, en caressant ce chien, je me suis dit, c'est bizarre, c'est tendu. Après, j'ai une mère et une sœur qui élèvent toujours des chevaux pour ma sœur. Et j'ai commencé à m'intéresser aux chevaux. Mais ça, c'était quand j'étais encore mineur. Mais j'ai toujours eu envie de soigner avec mes mains. Donc, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai jamais eu envie de faire autre chose. Donc, après le bac, j'ai enchaîné sur kiné, que j'ai fait à Marseille. Et après, comme ça m'ennuyait un peu, j'ai découvert Poyer dans un congrès de mésiristes. Et il présentait sa méthode. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai eu un déclic, le flash de ma vie, véritablement le flash de ma vie, en disant je suis né pour faire ce qu'il fait.
Ouais. La méthode Mézières, pour préciser, c'est une méthode
d'étirement.
Ouais, de spécialisation en kiné, où il y a beaucoup d'étirements, de chaînes musculaires.
Chaînes musculaires, voilà. Et qui est très complémentaire avec la kiné. Beaucoup de très, très bons kinés ont été formés à la méthode Mézières.
Ouais, ça obtient souvent de très bons résultats. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Donc, tu es à ce congrès de mésiristes.
Et je rencontre un vieux monsieur qui bricole une épaule pour présenter sa technique. J'ai d'ailleurs montré qu'il trichait un peu quand il trafiquait un peu, mais ça, je l'ai découvert après. Mais sa façon de travailler m'a tout de suite plu. Et une petite voix m'a parlé, m'a dit « c'est ça qu'il faut faire ». Et voilà, et je suis parti dans ses études. J'ai entraîné à l'époque mon meilleur pote qui était kiné comme moi et qui s'apprêtait à faire ostéopathie à Maidstone en Angleterre. Et puis je lui ai dit, moi je te suis pas, je veux faire un truc. J'ai découvert un mec qui s'appelle Poyer, et il a essayé une première fois, une deuxième fois, il a dit ok, on fonce, on fait Poyer. Et c'est aujourd'hui mon associé principal au COTM, Bruno Olivier, qui a eu lui-même, qui a eu un podcast par Grégory Planet, dont on parlait tout à l'heure.
Oui, très
voilà,
bien.
Et qui a fait un podcast avec lui, et qui lui est très connu du milieu sportif de haut niveau.
D'accord.
Bruno Olivier.
CETM, qui est du coup l'école de thérapie manuelle de
voilà,
méthode Poirier,
voilà,
que tu as créé.
Que j'ai créé avec Bruno il y a de ça exactement 25 ans.
Qui se situe aujourd'hui
à la Grande Motte.
D'accord, juste à côté de Montpellier.
Voilà, où je suis. Sud de Montpellier.
Ok. Dans tout ce parcours, quel âge tu avais à peu près quand tu as commencé la méthode Poirier ?
La méthode Poirier, j'avais 24, entre 24 et 25 ans. J'en suis sorti donc à 29 ans, ça dure 4 ans. Avec Maurice Poirier, ça durait 4 ans. Et puis du coup, à 29 ans, j'en suis sorti. Et j'ai commencé l'enseignement juste après mon diplôme. Donc à 29 ans, j'ai commencé l'enseignement et je n'ai jamais arrêté.
D'accord. Et comment ça s'est passé cette rencontre avec Maurice Poirier ? Ça a tout de suite matché, t'as apprécié
suite,
la personne.
Tout de suite, j'ai instantanément flashé. Mais c'était curieux, ça en était même très curieux. Quand je raconte ça aujourd'hui à mes enfants, à ma femme, j'ai toujours dit ça. Ça a été un flash exceptionnel que j'ai eu avec Poirier. Et je me suis toujours dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, lui aussi m'a trouvé. Il m'a formé en dehors des cours. Je suis allé travailler dans son cabinet avec justement Bruno Olivier. Et il m'a un peu formé à lui succéder.
Ouais.
Et du coup, voilà, j'ai eu mon diplôme à 11h. J'étais prof à midi.
Impeccable. C'est allé très vite.
Ouais, ça allait très vite.
Et mes profs à 29 ans, tu avais déjà cette envie de transmettre.
Exactement.
Ouais.
Et puis j'étais passionné. J'étais que là-dedans. L'ostéopathie, le MRP, j'en rêvais la nuit. J'étais
ouais,
dedans tout le temps.
On va en parler tout à l'heure.
Voilà. En fait, je rêvais de ça. Et puis, j'ai eu la chance inouïe de lui succéder, ce qui était une responsabilité énorme. Parce que c'est pas rien de succéder à un génie pareil, parce que c'en est un. Et puis, mais j'étais au centre de ma passion, donc pas grave, la route était ouverte.
Quand tu as appris la méthode Poirier par Maurice, Raymond maintenant,
Maurice Raymond Poirier, ouais. MRP,
comment était la formation à ce moment-là ? On t'apprenait quoi concrètement ?
Alors, c'était une école qui était ouverte à tous, c'est-à-dire que c'était ouvert à... J'allais dire, vous pouviez être électricien, maçon, kiné. Vous étiez tous formés de la même façon. C'était en 4 ans, 6 séminaires par an. Exactement la formule qu'on a continué à appliquer dans notre école au CETM. Et ça dure 6 séminaires de 4 jours. Et 6 séminaires par an, donc en 24 séminaires, vous êtes formés à la méthode avec une vision, les deux premières années, segmentaire du corps humain, c'est-à-dire qu'on va partir d'une articulation, on va passer à une autre articulation, un os du crâne à un autre os du crâne. Au bout de 2 ans, on a fait le tour de tous les éléments de la structure. Donc, on a étudié la cheville, le genou, la hanche, etc., etc., tous les os du crâne un par un. En troisième année, on a exactement appliqué la même chose, on enseigne les chaînes, ce qui est la grande découverte de Maurice Poirier avec les fusibles. On enseigne les chaînes, puis ensuite, en quatrième année, on enchaîne des choses très spécifiques, comme l'ophtalmo, qui est ma spécialité, la déglutition aussi, qui est ma spécialité. Je suis beaucoup de crânien, j'adore ça. Et avec la méthode Poirier, on a ce qu'on appelle le pied crânien, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui donne un crâne extrêmement précis. Et du coup, voilà, moi, on m'a beaucoup en quatrième année, les élèves m'ont beaucoup en quatrième année parce que c'est mon domaine de recherche, l'ophtalmo, la déglutition, comment ça marche. J'adore comprendre comment ça marche.
Oui.
Et quand je ne comprends pas comment ça marche, je suis en panne, je suis triste parce que je ne sais pas comment. Alors un jour, je me mettrai, parce qu'il y a plein de domaines où on ne sait pas comment ça marche, alors je me mettrai à rechercher petit à petit dans d'autres domaines. Mais là, j'ai exploré donc l'ophtalmo, la déglutition, je voulais comprendre comment ça marche.
C'est génial. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la méthode Poirier ? Comment elle est née avec Maurice Poirier ? D'où ça vient ? Et sur quoi
alors,
elle se
Maurice
base ?
Maurice Poirier a fait une école à l'époque, on est après l'aventure commence, il s'engage dans l'armée pour faire la guerre d'Indochine. En arrivant là-bas, il s'aperçoit qu'il est mineur. Donc il n'a pas le droit d'aller sur le front, il n'a pas le droit d'aller se battre. Et on le met dans le personnel de santé. Et il commence par faire des soins infirmiers là-dedans. On ne sait pas trop ce qu'il va chercher, ce qu'il découvre à cette époque-là dans le soin. Quand il rentre, il va faire donc une école d'abord de massage, ça dure un an, c'est l'équivalent de la kiné aujourd'hui, dure un an à l'époque. Après, il va faire de l'acupuncture, une école d'acupuncture, une école d'ostéopathie. Et en fait, il va lier un peu ces notions d'ostéo par lesquelles il va découvrir petit à petit d'abord sa forme de manipulation. Il a une forme très particulière de manipulation. Quand on travaille en poulet, on manipule des pichenettes. En fait, on met des pichenettes dans la structure, ce qui en fait c'est équivalent d'une information. On va sur certains points du corps très précis. On donne des informations et ces informations vont déclencher des réactions en chaîne dans tout le corps. Et en fait, c'est un peu le principe de son traitement, c'est-à-dire on travaille par de l'information et on donne des informations très précises à la structure réagit, s'auto-équilibre. Et voilà, c'est le point de départ de Poyer, mais il a mis très longtemps avant d'arriver à ses chaînes. Il a fait beaucoup d'abord de local pour établir le MRP de chaque structure, comment ça bouge, puis ensuite son information en local, où mettre les doigts, comment mettre la pichenette pour corriger tel type de déficit du MRP dans la structure. Voilà, il va établir ça zone par zone, ce qui va lui prendre pas mal d'années. Puis un jour, il va travailler sur le petit 8, le grand 8, le moyen 8, qui sont des notions qui sont antérieures à lui. Et puis à partir de ces notions de 8, il va découvrir un truc fabuleux qui s'appelle les chaînes. Et les points de chaîne, c'est quoi? C'est un diagnostic au crâne, d'un déséquilibre crânien sur une pièce osseuse, par exemple. On va au sacrum, on corrige ce déséquilibre crânien sur une correction bien précise, d'une zone du sacrum bien précise. On va envoyer par une pichenette une information qui va corriger en partie la structure qu'on a vue au crâne. Et ensuite, bon, il va découvrir d'abord 8 superchaînes, puis une façon de soigner les strains, qui est assez problématique en ostéopathie. Lui, il va simplifier ça à bloc en corrigeant sur une petite zone où on va corriger nos strains, qui vont beaucoup nous libérer de l'énergie pour le reste, parce que ça pouvait être très long de corriger un strain en ostéopathie classique avant.
En ostéopathie crânienne classique.
Crânienne classique, ouais. Ça pouvait être très long. C'est là aussi la biodynamie. C'était ou alors du fluidique, mais ça pouvait être très long pour que ça soit très bien fait. En fait, il a trouvé une zone où il nous corrige ça en 2 minutes, que ce soit un strain vertical ou un strain horizontal.
Pour expliquer un tout petit peu, pour des gens qui sont peut-être un peu moins initiés en ostéopathie, en gros, un strain, c'est au niveau de nos perceptions, quand on va poser les mains sur un crâne, on va avoir des sensations. Si ça bouge bien, en gros, on va sentir comme si ça avait une respiration très fluide.
Très fluide, oui.
Très, très ample et qui fonctionne bien. Si à un moment, cette respiration, à travers les perceptions qu'on a développées à travers les mains, on sent qu'elle est moins fluide, qu'il y en a une qui se fait mal par rapport à l'autre. Et là, on va pouvoir parler de strain ou de compression ou de dysfonction qu'on va devoir corriger.
On peut même aller plus loin. On peut même dire qu'un strain peut vous empêcher carrément toute autre forme de perception. C'est-à-dire que le strain, quand il est un strain vertical, quand il est très féroce, quand il est très installé, peut empêcher toute autre forme d'écoute. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à délivrer la personne du strain pour pouvoir percevoir ce qu'il y a comme pathologie à côté. Donc le strain, c'est quelque chose d'extrêmement important à nettoyer d'emblée.
Très bien. Donc moi, dans ma compréhension, la méthode Poyer, elle va vraiment se servir du crâne pour tester,
ouais,
pour trouver où sont potentiellement les dysfonctions, les endroits où il y a moins de mobilité, enfin du moins moins de vitalité dans certaines zones du corps, moins d'énergie qui passe, moins de mobilité également, qui peut être de la mobilité macroscopique ou microscopique, peut être très fin également. Et les corrections vont ensuite se faire énormément au niveau du sacrum.
D'abord, dans un premier temps.
Et comment ça se fait que Maurice Poyer, il en est arrivé à cette conclusion, si tu sais ça, comment il en est arrivé où le crâne, il teste, et le sacrum, il corrige? Pourquoi pas l'inverse?
C'est de l'intuition.
L'expérimentation
et l'intuition. C'est l'intuition. C'est-à-dire qu'au fait, au départ, il a dû se prendre la tête, je pense, avec justement cette histoire-là. Et puis de se dire, tiens, si j'allais corriger à cet endroit-là, puisque j'ai découvert que quand j'ai par exemple mes temporaux qui sont en déséquilibre, que je me mets sur ce point du sacrum, je sens le même déséquilibre. J'ai une extension d'un côté, une flexion de l'autre. Et il a dit, bah, tiens, je vais envoyer l'information extension ou flexion selon ce qu'il sent au crâne. Et il s'est aperçu que ça corrigeait le crâne. Donc en fait, il est parti du principe que les corrections, en tout cas dans un premier temps, se font à distance pour corriger le crâne. Ce n'est pas le crâne qui va corriger la périphérie, c'est une correction périphérique qui va corriger le crâne. Et aujourd'hui, on le vérifie d'autant plus que on a développé, ces élèves, surtout un type qui est très très fort, qui s'appelle Pierre-Camille Vernet, qui a découvert ce qu'il appelle le pied crânien. C'est-à-dire qu'il a découvert chaque zone du pied quand il est bloqué, quand vous avez un cuboïde qui est en extension, quand il est sur axe vertical, qu'est-ce que ça fait au crâne. Et en fait, il a déterminé des zones extrêmement précises sur, lors d'un blocage du pied, qu'est-ce que ça fait au crâne. Et en fait, on a découvert, nous, par la suite, tout le reste du membre inf, qu'est-ce qui se passe entre la périphérie, donc le membre inférieur, et le crâne. Pouillet avait fait le sacrum et le crâne. Nous, on a fait le reste, membre inférieur. Et aujourd'hui, je travaille sur d'autres. Là, je travaille un peu sur le membre sup que j'ai commencé à découvrir. Et puis voilà, on continue la recherche.
T'es en recherche continue.
Tout le temps.
C'est un apprentissage infini, hein, le corps humain. Ok. Donc, je comprends un peu mieux. En fait, il retrouvait les mêmes perceptions qu'il avait au crâne dans d'autres endroits significatifs, et d'avoir exactement les mêmes perceptions, ça lui disait, ah ben là, peut-être que ça colle.
Exactement. Donc, il cherchait comme ça. Il appuyait à un endroit. Alors, par exemple, moi, quand j'étais travaillé dans son cabinet en dehors des stages, il me demandait, il se mettait au crâne et il me demandait d'attraper, par exemple, le cuboïde à quatre doigts et puis d'essayer de percevoir une petite torsion intra-osseuse du cuboïde que je détordais par une petite pichenette. Et hop, il confirmait, hop, il chopait un bout du crâne, il disait, ok, ça fait bouger ça, il prenait sa note. Et c'est comme ça qu'on procède, c'est-à-dire que quand on tombe sur un blocage, aujourd'hui, moi, en deuxième séance, quand je n'ai que des petits blocages à la périphérie, des petites choses, c'est là que je peux faire de la recherche, c'est que, en fait, quand je vais utiliser le fait que cette lésion soit très isolée, pour aller voir, essayer de voir à la périphérie si je ne peux pas avoir un blocage qui va me faire sauter cette zone de tension. Et c'est ce que lui appelait la cybernétique. Poyer était très, très branché, ce qu'il appelle cybernétique. Il nous en parlait beaucoup. Et la cybernétique, c'est quoi? C'est de comprendre qui est responsable de quel mouvement. C'est-à-dire quelle est la structure qui va vous verrouiller telle autre structure. Quand vous débloquez ça, qu'est-ce que ça débloque? Et ce qu'il y a de fascinant aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir, pour moi en tout cas, spécialiste du crânien, un crâne qui bouge à la perfection. Et un crâne qui bouge à la perfection, c'est du poyer pratiqué à très haut niveau.
Et c'est quelqu'un qui va bien.
Et c'est quelqu'un, ben oui, ouais. Il va très bien.
C'est vrai que... si on ne connaît pas du tout cette méthode et qu'on vient en tant que patient sans savoir ce que tu fais, ça peut être assez déroutant et magique, parce qu'au final, c'est vraiment des petites pichenettes, comme si on effleurait la peau. Exactement. Vers le haut, vers le bas. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Un peu dans le même principe qu'en ostéopathie biodynamique, où on va pouvoir se poser sur une personne et quasiment rien faire. Exactement. Et en fait, tout se fait dans le patient. Tout se fait à travers la santé et on envoie de l'information.
Exactement. Alors, dans la biodynamie, on ne fait rien. C'est-à-dire oui. qu'il ne faut surtout pas qu'on intervienne. On est juste un relais d'énergie. On a les pieds ancrés. On a l'esprit tranquille, un esprit bienveillant. Et j'adore le mot bienveillance. J'adore essayer de décrire ce que c'est que la bienveillance. Et on est dans cet abord-là, la biodynamie, on ne fait rien. On est juste un relais. Là, on agit. Là, on agit même par des micro-pichenettes, mais on est actif.
Et donc, là, nos actions, elles vont vraiment être en fonction de nos perceptions.
Exactement.
Et ces perceptions, elles sont à travers le ressenti du MRP.
Exactement. On ne cherche que le MRP et on ne travaille que là-dessus.
Selon toi, ta vision aujourd'hui du MRP, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très controversé.
Alors, pour moi, c'est un mouvement qui débute dans l'embryon. C'est une nécessité... en fait, quand un embryon grandit, il a nécessité d'avoir des migrations de groupes de cellules d'un point à un autre, comme par exemple si on prend le coccyx et l'ethmoïde, et ben en fait au départ c'est un groupe commun de cellules qui vont migrer et former les deux extrémités du tube neural chez le bébé. C'est pour ça que chez nous par exemple le diagnostic du coccyx se fait à l'ethmoïde. C'est qu'au départ, en fait, sur le plan cellulaire, embryologiquement, et en fait, la nécessité de la migration des groupes de cellules, il y a besoin d'avoir un mouvement organisé pour avoir une migration des groupes de cellules d'un point à un autre du fœtus dans sa croissance. Et cette, pour moi, le MRP naît déjà là-dedans, c'est-à-dire... Quand on regarde un fœtus, on s'aperçoit qu'il y a toujours du mouvement, que ça bouge dans tous les sens. Et pour moi, le MRP, mais c'est une vision tout à fait personnelle.
Bien sûr.
C'est absolument pas une vérité. Pour moi, le MRP naît dans la nécessité de la migration des groupes cellulaires, les uns par rapport aux autres, chez le fœtus.
Ouais. On voit quand on se penche un peu sur ces questions-là que la vie fait jamais rien au hasard. À quel point il y a une perfection dans le corps humain. Qui a une résilience incroyable. Et selon toi, est-ce que Maurice Poyer s'est également basé sur cette embryologie, sur le développement embryologique pour faire ses...
Je ne crois pas.
Ouais, il s'est vraiment basé sur ses perceptions.
Sur ses perceptions, c'est
ça. Et cela dit, aujourd'hui, on retrouve par contre des parallèles avec l'embryo.
Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on retrouve des parallèles avec l'embryo ? Oui, il se trouve que ça marche quand on fait des parallèles avec l'embryo. Mais lui, c'était pas son truc, l'embryologie, la compréhension de la croissance du tube neural, puisqu'on en parlait, c'était pas, je ne sais pas, en fait, j'en sais rien, mais c'était pas, il nous en parlait pas. C'était quelque chose que j'ai découvert par la suite. C'est d'autres personnes qui ont développé l'embryologie. Alors, je pourrais dire un mot d'un mec qui s'appelle Serge Magnier, qui a enseigné avec Pierre-Camille Vernet, Odile Baudonnel, dans l'école de Rennes, qui était très, 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 très bon en embryologie et qui a fait énormément avancer le lien embryologie-Poyer. Parce que justement, il a établi ce qu'était que l'embryologie, comment retrouver le sacrum embryologiquement, comment le superposer au crâne, dans une vision qui est très juste pour moi. Mais c'est une perception qui m'est personnelle.
Évidemment. Ok, merci. Comme tu as eu l'honneur de côtoyer Maurice Poyer d'assez près, est-ce que tu peux nous parler, toi, de cette personne ? C'était.
Alors, c'est une personne.
En tant que thérapeute,
non, c'est une personne qui. Justement, qui n'était pas si bon que ça. C'est assez étrange, mais c'était un type qui aimait bien diviser pour mieux régner. On s'en a aperçu dans la formation qui l'animait. D'abord, il enseignait avec un gars qui s'appelle André Brunel, qui est décédé il y a quelques années maintenant. Qui était une sommité en ostéopathie et en acupuncture, qui était un type redoutablement connu en physiologie, en neurologie. C'était un type qui avait été formé par Laborie, Brunel. C'est un des types qui est cofondateur de l'éthiopathie. Donc c'est un gros calibre, qui est très très connu dans le milieu des ostéopathes de mon âge aujourd'hui, qui a formé beaucoup de monde. Et donc, ils ont travaillé ensemble, là, Brunel ayant formé Poyer, notamment en acupuncture. Mais Poyer a vraiment inventé quelque chose de radicalement nouveau. Et Brunel s'est aperçu que c'était totalement révolutionnaire. Donc, ils ont enseigné ensemble. Mais là, toujours pareil, il y a un moment où les deux chocs des deux monstres on finit par exploser. Moi, j'ai assisté à cette explosion où l'école s'est scindée en deux. Ils se sont battus physiquement lors d'une réunion à la fin d'un séminaire. L'école a explosé. Et Poyer, c'était un type qui faisait quand même tout pour garder son bébé à lui, que personne ne lui vole. Maintenant, c'est un ostéopathe comme j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une perception à la fois quand il touchait votre corps, il vous disait 10 doigts, 10 perceptions différentes. Mais lui, il avait une perception en plus autre des champs, qui sont des champs qu'on appelle éthériques et astro. Il avait une perception directe, instantanée, d'informations pour lesquelles, pour nous aujourd'hui, il faut 10 ans de travail pour obtenir ces informations. Chez lui, c'était naturel. Mais il faut savoir une chose dans l'histoire de Maurice, c'est que c'est un homme qui a perdu un fils. Et du coup, de la qualité de l'homme, je n'aime pas parler. Parce que quand on a perdu un fils, il peut tout vous arriver. Il y a juste à être papa pour savoir que, vous perdez un fils, vous pouvez exploser en 1000 morceaux et sans que personne puisse vous juger, parce que c'est comme ça. C'est, voilà. Donc, parler de l'homme, c'est difficile. C'était un homme pas facile. C'était un homme qui avait ses chouchous. Je suis bien placé puisque j'en faisais partie, mais qui était en dispute avec d'autres pour des raisons mystérieuses, pour des raisons qui étaient de l'ordre de sa perception à lui. Donc c'est un personnage, moi, que j'ai beaucoup admiré, que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, sur le plan humain, beaucoup vous diront que c'était un piètre personnage, je ne m'aventurerai pas là-dessus.
Ouais, ok, merci pour cette sincérité. Donc, Poyer, assez incroyable, parce qu'on a l'impression que c'est un peu magique, mais ce qui a fait, surtout je pense, durer cette méthode, c'est qu'elle marche. Elle est vraiment incroyablement efficace.
C'est ça. Là, le gros avantage de cette méthode, c'est qu'en fait, quand on voit travailler des ostéos, et que des ostéos, quel que soit, moi ça fait 15 ans que j'en forme, donc j'en ai vu de beaucoup de formations, d'écoles différentes, la grosse chose que je leur donne, c'est d'abord que je leur donne des fusibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fusible ? C'est une petite, c'est un petit point vibratoire qu'on va trouver sur certains points, par exemple de la colonne vertébrale ou du crâne. Et ces points, ces zones qui vibrent sont révélatrices de la qualité de ce qui se passe en dessous. Quand on fait une erreur de manipulation, quand on manipule quelqu'un en lui donnant une information qui ne convient pas au corps, ces points vibratoires vont s'arrêter de vibrer. À partir du moment où ces points vibratoires vont s'arrêter de vibrer, plus aucune information ne pourra être délivrée dans la structure. En tout cas, plus aucune information qui pourra générer du mal. Le corps se protège de la mauvaise information grâce au fusible, ces petits points vibratoires. Donc Poyer, ça a été le premier à les mettre en lumière. Ça, il les a mis en lumière à la suite de son apprentissage en acupuncture. Parce que c'est des points qui sont sur un méridien, pour la plupart, qui sont sur un méridien qu'on appelle le Tummo, qui est un point méridien qui longe donc les épineuses du coccyx jusqu'au sacrum, au sommet du crâne, et qui vont jusqu'à un point qu'on appelle le troisième œil, ici, entre les yeux. Ce sont des petites zones vibratoires qu'on va vérifier en permanence pour savoir si dans notre travail on n'a pas fait de bêtises, la personne supporte bien le traitement. On va vérifier donc ces fusibles en permanence. Et c'est ce qui manque, c'est la première chose qui manque aux ostéopathes que je forme, c'est qu'ils, de temps en temps, ils font des surcorrections. On va dire des bêtises, oui, ça correspond à des structures, à des petites bêtises, parce que le corps ne veut pas de cette information. Mais en fait, le sujet, l'ostéopathe ne sait pas qu'il fait une bêtise parce qu'il n'a pas de notion de ses points vibratoires.
Parfois, on en donne un peu trop, sûrement.
Exactement. Parfois, on corrige par excès. C'est-à-dire qu'on en fait trop dans un corps.
Et à ce moment-là, quand on a peut-être fait... on a donné peut-être un peu trop d'informations et que ce fusible sature.
Sature, et il arrête de vibrer.
Comment on fait pour...
Il faut mettre ses doigts. Il faut savoir, il faut justement les connaître.
Vous
mettez les emplacements sur ses doigts et vous vérifiez. Moi, je le fais au début. Alors, je le fais moins maintenant parce que c'est devenu très intuitif. Mais on met les doigts sur les points vibratoires et on vérifie que ces points vibratoires fonctionnent.
Si le corps est toujours capable de réceptionner de l'information.
Exactement. Et si on n'a pas fait de bêtises. Et c'est très rassurant à la fois pour le patient, à la fois pour le thérapeute. Parce que le thérapeute, il est il est en capacité de savoir en permanence s'il a bien agi, si toutes les informations qu'il a fait passer sont bien passées, s'il en a fait trop passer, s'il manque des choses. Bref, ça va nous renseigner sur tout un tas de petites choses. C'est fusible et c'est extraordinairement éclairant sur le fonctionnement du système. C'est-à-dire ce qui est au-delà du fusible, l'intérêt du thérapeute pour le fusible, de savoir que vous avez une espèce de pile qui fonctionne, qui vous donne voilà, un bon fonctionnement parce que vous avez un fusible qui vibre normalement. Et quand vous allez, par exemple, avoir un accident de voiture, que vous allez être traumatisé parce que vous avez eu très, très peur, vous avez percuté un arbre, un machin, vous sortez et vous tremblez de partout. Le choc, l'état de choc indique un fusible majeur qui s'est arrêté de fonctionner, qui s'appelle une trangle. Ce fonctionnement, ce fusible va reprendre très vite le dessus, donc vous allez vous calmer, respirer, ce fusible va se remettre en route. Mais en fait, voilà, quand on a un traumatisme très violent, le premier à disjoncter, c'est le disjoncteur principal, c'est une trangle. Non, c'est le relancer. On a de temps en temps des personnes qui arrivent en ayant un trangle arrêté. Donc ça, c'est la première chose qu'on va relancer. Parce que sans ce trangle, il ne se passe rien. Et puis après, on a deux autres fusibles en réalité. Bon, je ne parlerai pas pour l'instant. Mais voilà, vous avez deux autres fusibles, dont un qu'il faut vérifier tout le temps, qui est le signe que tout se passe bien dans la séance, que la personne supporte bien le traitement. Alors, il faut savoir que, par exemple, quand ce deuxième fusible est arrêté, eh ben, il n'y a pas de lien entre le crâne et la périphérie. C'est-à-dire que tout ce que vous allez sentir au crâne ne reflète plus du tout ce qui se passe dans la périphérie. Et donc, il faut relancer ce fusible. À ce moment-là, les choses redeviennent cohérentes entre le crâne et la périphérie.
Ok. Merci pour cette super précision sur les fusibles. Maurice Poyer, si je ne me trompe pas, est décédé en 96. Oui. Et donc, un an après, toi, tu ouvres l'école.
Voilà, c'est bon, 18, je crois que j'ouvre l'école. On décide de la créer avec Bruno. Mais d'abord, on a tapé les cours, on savait pas où on allait, on commençait, on était presque plus de profs que d'élèves. Je crois qu'on était deux profs pour trois élèves à la première promo.
Ça commence toujours comme ça.
Ça commence toujours comme ça, il faut ramer, galérer. On a beaucoup rigolé à écrire nos cours. On était avant l'informatique réellement. Lui, il avait le premier ordinateur qui plantait tout le temps. Du coup, j'écrivais tout à la machine à écrire. La vraie machine à écrire.
Clac, 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 clac,
clac, clac, clac, clac, avec les tiges de fer, comme tu vois, là. Et donc, on s'est beaucoup amusé quand même à monter notre école. On l'a montée, voilà, moi, j'enseignais depuis 93. Et ça faisait donc 5 ans que j'enseignais déjà. J'enseignais à Concarneau, en Bretagne. Et quand j'ai décidé de monter avec Bruno cette école, en 97-98, on a monté 16
ans. Ok. Si on regarde aujourd'hui École de méthode Poyer sur Internet, je crois qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'écoles aujourd'hui.
Énormément. Il y a beaucoup de formations. Alors là-dessus, il y a des écoles sérieuses.
Comment on fait le tri dans tout ça ?
Alors, comment on fait le tri ? Moi, j'ai fait le tri déjà il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Il y avait déjà beaucoup d'écoles. Beaucoup d'élèves s'étaient mis à enseigner la méthode Poyer. Et en fait, il y avait deux grands types d'écoles. Il y avait des écoles que je considérais comme sérieuses, où j'ai appelé les profs, je les ai réunis autour d'une table, parce qu'on avait d'autres petites écoles qui se montaient, mais qui étaient du dumping. C'est-à-dire, quand vous enseignez la méthode Poyer en 4 ans, et que vous tombez sur Internet, sur une formation où le gars il propose la méthode en 4 séminaires, sur le plan commercial, vous ne faites pas le poids. Ça s'appelle du dumping. Hein, vous avez un type qui pratique du dumping, c'est-à-dire qu'il va vous vendre une technique en 4 séminaires, alors que normalement, elle s'acquiert en au moins 3 ans. Moi, j'ai enseigné, par exemple, dans une école pendant des années en Bretagne, où on formait en 3 ans, et on s'apercevait à la fin de la 3e année que les élèves étaient insuffisants dans leurs mains, insuffisamment précis. Et du coup, dans ces écoles en 3 ans, on rajoutait une année. Et voilà, du coup, moi, j'ai fait passer des écoles qui étaient enseignées traditionnellement en 3 ans, on les a fait passer en 4 ans, parce que les élèves... Du coup, les écoles en cinq séminaires ne nous paraissaient pas sérieuses. Et du coup, on a décidé de se regrouper. J'ai pris les profs qui me paraissaient les plus sérieuses et on s'est regroupés en une fédération de gens qui enseignaient la méthode de Poyer de façon sérieuse.
Ok, vous avez fait quand même un consensus pour vraiment avoir une fédération qui...
Exactement, on a essayé de créer une fédération d'enseignants où les formations, c'était du Poyer avec de la consistance, on va dire.
J'imagine éventuellement certaines personnes qui peuvent nous écouter, si elles souhaitent éventuellement se former à la méthode Poyer. Comment elles peuvent savoir que ces écoles sont certifiées à cette fédération ?
Alors, on a une dans chaque école, vous allez trouver un petit sigle qui vous dit que vous êtes adhérent à la FIEMP. FIEMP, la FIEMP, c'est la Fédération internationale des enseignants de la méthode Poyer.
D'accord.
Et voilà, ça regroupe les écoles sérieuses dans l'enseignement Poyer. Sachez que des écoles sérieuses, c'est au moins 3 ans de formation, au moins.
Ouais. C'est d'ailleurs malheureusement ce qu'on voit apparaître dans beaucoup, beaucoup de méthodes maintenant alternatives à la médecine, avec des gens qui vont se former en hypnose en 2 séminaires de 2 jours, d'autres qui vont se former en micronutrition en 3 séminaires de 4 jours. C'est un peu ce qui fait aujourd'hui... On entend souvent parler de charlatanisme à travers les ostéopathes, à travers peu importe. Moi, je trouve que le vrai charlatanisme se fait par des gens qui se forment en fait sur très peu de formations et qui vont promettre tout.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vous promet l'hypnose, en deux séminaires de 4 jours, moi qui ai pratiqué l'hypnose et surtout l'auto-hypnose, moi qui ai pratiqué, il faut bien plus longtemps que ça pour former un hypnothérapeute. Alors, je ne connais pas leur module, hein. Je n'ai jamais été faire bien d'école. Sûr. Mais oui, j'imagine, on peut toujours... vous allez toujours trouver, au milieu de très bonnes formations, des types qui font de la micro-kiné, des types qui font ça avec amour, qui font ça, qui ont développé ça, qui ont... Dans toutes les formations, vous avez des types extraordinaires qu'il faut connaître. Et puis, vous avez des gars qui vont profiter d'une situation pour vendre une technique, qui la vendent de travers. Aujourd'hui, moi, j'assiste à ça dans les écoles d'ostéo. Je voyais autrefois, les écoles d'ostéopathie, vous aviez toujours un vieux bonhomme qui était à la tête, un bénichou, un beau zéto, qui était à la tête d'une formation où ils étaient devenus, j'allais dire, des référents. Aujourd'hui, quand je vois les dérives des différentes écoles qui sont rachetées par des fonds de pension, ce qui me navre, c'est de voir, et j'en ai formé, parce que j'ai formé des profs, des gens qui étaient déjà profs dans d'autres écoles, des profs qui s'en vont de l'école où ils enseignaient depuis toujours, parce qu'ils sont rachetés par ces fonds de pension. Ces fonds de pension gardent l'argent pour leurs actionnaires, donc sous-payent les profs. Les profs finissent par partir, et ce que vous vous retrouvez, vous vous retrouvez avec des écoles où vous n'avez plus que des moniteurs. Donc des gens qui ont peu d'expérience dans l'ostéopathie. Or, l'ostéopathie est un métier d'expérience. Donc c'est toujours bien plus intéressant d'aller se former auprès d'un type qui a un certain âge, qui a de la bouteille, qui en a vu de toutes les couleurs, qui est devenu prudent dans son enseignement, mais en même temps précis, plutôt que des formateurs qui sont de toute façon là de passage, qui ne vont pas y rester là, et qui ne mettent pas le même cœur à l'ouvrage.
Ouais, je suis tellement d'accord. Moi, j'ai été extrêmement heureux de faire mon école à Vichy, à l'Ipso-Vichy, parce que j'ai trouvé une réelle qualité dans l'enseignement.
Ah, c'est ça.
J'ai vraiment apprécié, mais je vois énormément de retours, comme je vais rencontrer beaucoup de gens, je vais rencontrer beaucoup de thérapeutes, je fais énormément de formations. Je vois énormément de retours de beaucoup d'écoles, et nombre de personnes vraiment me disent qu'ils sont déçus, en fait, par la formation, parce que il n'y a plus trop déjà la transmission vraiment de la philosophie de l'ostéopathie. Et maintenant, très souvent, on retrouve en fait des profs qui sortent de l'école depuis 2 ans, qui ont vu même pas depuis 1 an ou 2 des patients et qui ont très peu d'expérience. Ouais. Donc tu te retrouves avec un gars qui t'apprend l'ostéopathie, mais qui t'apprend juste ce qui est écrit sur les feuilles, des agréments.
Et puis qui t'apprend des manipulations. Or, c'est comme tu le disais, il y a une philosophie derrière, il y a une sagesse, il y a un état d'esprit qui vient avec justement... avec l'âge, un peu avec... voilà, moi, j'ai 30 ans d'ostéopathie derrière moi. J'enseigne pas du tout la méthode Poyet de la même façon aujourd'hui que je l'enseignais quand j'ai débuté. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, ce qu'on voit disparaître. C'est des vieux profs. Moi, j'aime beaucoup les vieux profs. Les vieux profs, quand je regarde travailler des ostéos, j'écoute tes pauvres podcasts, j'écoute les podcasts de Greg, j'entends parler d'ostéopathes que j'ai lu dans des livres que j'ai jamais rencontrés. Mais ça me fait un plaisir immense parce que c'est des types qui vous apprennent des kilomètres de petites choses. Moi, je forme des ostéopathes, donc ils sont déjà diplômés. Je les regarde travailler, j'apprends énormément de choses. Je suis une éponge, je regarde, oui. J'essaye, je regarde sa façon de faire, elle me plaît. Et en fait, c'est ça l'expérience. C'est d'avoir croisé des centaines de personnes comme ça, qui m'ont appris des trucs que personne ne pratique jamais. Et puis ça marche. Et du coup, ça enrichit à la fois ma pratique de thérapeute, mais ça enrichit mon enseignement. Et c'est ça, d'être un vieux, bah c'est que vous avez empilé de la connaissance, structuré de la connaissance, pas comme des petits tiroirs, mais vraiment un truc qui, même sur le plan philosophique, vous a construit. Mmh. Et un vieil ostéopathe, c'est tout ça. Et quand je vois des écoles où vous avez le plus vieux prof à 3 ans d'expérience, ça me navre. Ouais. Ça me navre, parce que je sais que les élèves qui vont en sortir vont souffrir de cette immaturité.
Ouais. Ouais, c'est sûr. On apprend tellement des rencontres qu'on fait à travers cette expérience et à travers la transmission de mentor à élève, quoi.
Exactement. Et vous serez bons ostéos quand vous serez vieux. Dites-vous que vous serez exceptionnel ostéo quand vous aurez 80 ans. si vous avez l'occasion. Moi, je ne m'arrêterai jamais, je ne prendrai jamais ma retraite. Alors, on est en plein dans les retraites en ce moment. Moi, je ne suis pas concerné.
Tu n'es pas dans la rue le jeudi, du coup.
Voilà, non, parce que en fait, je ne suis pas concerné parce que je ne la prendrai pas. Je fais pas un métier, je pratique une passion. Et puis, un art de vivre. Et puis, voilà, faire du bien aux gens, ça a toujours été mon kiff à moi, mon truc. Et je ne m'arrêterai jamais. Ni d'enseigner, ni de pratiquer. Je mourrai sur mon dernier patient.
C'est vraiment la beauté que je trouve de ce métier, quoi. C'est passionnant.
C'est passionnel.
Ouais, exactement. Donc, tu as fait l'école d'ostéopathie au final ou pas, classique ?
Alors, j'ai fait que Poyer, mais après, j'ai fait une formation en ostéopathie biodynamique.
Ouais.
Chez une fille qui s'appelle Julie Jaubert, qui enseigne, qui est un peu la descendance de James Jellous.
D'accord.
Et après, j'ai fait quelques stages chez un rebouteux qui s'appelle Geoffroy Petit, qui était à l'époque au Puy-en-Velay, maintenant qui est à la Grande Motte, paraît-il. Et j'y retournerai parce qu'il m'a appris des choses incroyables sur ce qu'étaient les rebouteux. Et puis, les rebouteux pratiquent des choses, par exemple, sur un travail sur les nerfs en direct, que je n'avais jamais abordé en ostéopathie, et qui m'ont permis de libérer des cruralgies. Un exemple, hein. C'est des cruralgies, des souffrances du trijumeau. Je ne sais pas si tu as déjà eu des souffrances du trijumeau, mais c'est les souffrances du 5, du nerf trigéminal. C'est une des rares pathologies où tu as des suicides.
Ça fait des maux de tête atroces, c'est insupportable.
Ça fait des maux de tête qui ne s'arrêtent jamais. Et ce gars-là m'a en plus appris de mon métier, en plus de ça, à travailler sur les nerfs, qui m'ont permis de sortir des problèmes de trijumeau à certaines personnes, qui ça a transformé leur vie.
À
truster les nerfs, voilà, exactement.
Ça attise tellement ma curiosité, il faudra que j'aille le rencontrer.
Il était du Puy-en-Velay, je crois, au départ. Non, c'est pas toi qui...
Moi, je suis de Montpellier.
Montpellier, ouais. Il était à la Grande Motte, donc juste à côté.
Ouais, ouais.
Il s'appelle Geoffroy Petit, et il est formidable.
J'irai le contacter. Dans ton enseignement, pour travailler en méthode Poyer, il faut évidemment avoir un ressenti et des perceptions qu'on a à travers les mains.
Ouais.
Dans toi, ta méthode d'enseignement, parce que bon, l'électricien qui vient se former à la méthode Poyer, il n'a pas vraiment encore créé de sensibilisation à ces perceptions-là. Quels sont toi tes outils, tes moyens d'apprentissage pour pouvoir développer? Parce que ce n'est pas inné au début.
Non, alors on a été confronté, parce que l'école est quand même très vieille, elle a 25 ans aujourd'hui, on a toujours été confronté de tout temps à toutes les promotions. On a des élèves qui ont plus ou moins de facilité à percevoir le MRP. Aujourd'hui, moi, quand je veux faire sentir, par exemple, un trang à mes élèves, parce que c'est une perception, on dit énorme, mais c'est très difficile. En fait, votre cerveau, quand vous mettez les premières fois sur un crâne, donc on vous dit ça bouge comme ça, en fait, votre cerveau ne sait pas ce que c'est que cette information. Il dit ça bouge, ok, mais de quelle amplitude, avec quelle virulence ça bouge. Et en fait, le cerveau a besoin d'une référence. Un jour, le cerveau va avoir une information dans vos mains. Vous allez avoir apparaître une information qui sera à peu près nette. Et votre cerveau, à ce moment-là, sait ce qu'il cherche. C'est-à-dire que la difficulté pour le cerveau, c'est de connaître la nature de ce mouvement, l'amplitude du mouvement. Et quand vous avez une perception un jour sur un des élèves qui s'est prêté à votre jeu, ou un cobaye, quand vous étiez étudiant, qui s'est prêté, et tout d'un coup, vous sentez, par exemple, un strain vertical. Vous dites, ça y est, j'ai senti un strain vertical, enfin. Ça fait des mois que mon prof me tanne avec ça, j'en sentais pas, et tout d'un coup, j'en ai un. Et bien, le cerveau a son référentiel. C'est-à-dire qu'il a cette écoute primaire d'un strain, et le cerveau va chercher cette information chez tous les autres patients, à retrouver cette information. Et c'est comme ça qu'on progresse. Moi, par exemple, je sais accélérer très fortement mon intrang. Mentalement, je sais me mettre en posture pour qu'un élève qui travaille sur moi, je lui dis, tu me poses ton doigt là, tu restes à la surface de ma peau, et moi j'accélère son intrang, et je sens que son pouce bouge avec mon intrang, avec ma vibration.
C'est bien
ça. Je sais le faire, donc je sais recréer, donner la sensation à cette personne. Maintenant, il y a des élèves qui sont surdoués, des élèves qui sont doués, des élèves qui sont moins doués, et il y a des élèves qui ne sont pas faits pour ce métier.
Ouais. Ouais, c'est intéressant de pouvoir te mettre à la place de l'élève pour lui donner la sensation.
Exactement.
Selon toi, ça c'est ma curiosité personnelle dont je suis assez convaincu, mais comment tu vas pouvoir augmenter ton intrang? Pour moi, c'est la perception. En fait, du moment où on pose notre attention sur une partie de notre corps, pour moi, on va accumuler de l'énergie sur cette partie du corps.
On peut faire ce qu'on veut, en fait.
Ouais. Peu dans le même principe que la méditation, sur la perception personnelle.
En fait, la présence. Quand vous êtes présent dans une structure, vous pouvez mettre votre mental, on s'en aperçoit très bien en biodynamie, vous pouvez être focus mentalement sur une zone du corps. Vous pouvez le faire chez vous, sur vous. Vous pouvez, par exemple, vous dire « je vais me concentrer sur mon pouce droit ». Vous rentrez en écoute de votre pouce droit et vous dites « qu'est-ce qui se passe dans mon pouce ?» Vous vous interrogez, vous dites « tiens, c'est marrant, je sens un point qui est un peu dur ici ». En fait, on est capable de positionner son attention sur une partie de notre corps. Et cette partie de notre corps, elle va réagir à cette présence. Moi, quand je faisais de l'hypnose, j'ai appris l'auto-hypnose quand j'avais 15 ans. Un des exercices que j'ai pratiqué, c'était que je me projetais mentalement, ma présence se projetait sur un de mes pieds, que je décidais de masser par l'intérieur, mais sans agir dessus, on est allongé. Les gens, quand ils touchent vos pieds, sentent une vraie différence de température entre le pied que vous êtes en train de masser et l'autre. Et en fait, c'est pour vous dire qu'on peut objectiver, si on pouvait chercher à objectiver ce genre de choses, on pourrait objectiver la présence comme ça. On peut mettre son attention et être focus sur une zone du corps et à ce moment-là, la mettre en vibration, augmenter sa vibration.
Ouais, c'est génial. Et je pense que d'ailleurs, on mystifie souvent l'énergie, alors qu'en fait, je pense que ça peut être expliqué très simplement comme ça. C'est quand on pose notre attention sur quelque chose, c'est bien qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là.
Exactement.
Il y a une onde électromagnétique, quelque chose qui se
exactement.
Passe.
Exactement. L'amour, c'est quoi entre les êtres ? L'amour, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on vibre sur des fréquences. Moi, je suis... Voilà, j'ai un fonctionnement avec, à l'intérieur de mon corps, des forces, des faiblesses, des points... des points vibratoires qui seront plus forts que d'autres zones qui sont éteintes. On a tous des points forts et des points faibles. Et en fait, quand on est en présence de quelqu'un d'autre, on va dire, par exemple, putain, je sais pas pourquoi cet homme ou cette femme, je la sens pas ou je le sens pas. En fait, on est juste sur des fréquences qui sont pas mariables. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des fréquences, on vibre sur des fréquences qui sont pas toujours compatibles avec celles du voisin. Ouais. C'est pas qu'il est mauvais ou mal, c'est qu'il vibre pas sur nos fréquences. Il a pas des... Il met pas la même attention sur des choses sur lesquelles vous allez mettre de l'attention. Vous allez être, par exemple, amoureux de tel et tel truc. J'aime le cinéma, j'aime ci, j'aime là. L'autre, il va pas du tout vibrer sur la même fréquence. Ce que tu aimes, il en a rien à faire. Et en fait, vous vibrez pas sur la même fréquence. Et en fait, l'amour, c'est énormément de fréquences qui se retrouvent. Et ça se voit dans les phéromones. Les phéromones, ça se voit comment ? Les phéromones, par exemple, on parlait de Werber tout à l'heure quand il parlait des fourmis. Les phéromones, c'est la vibration. Et nous, c'est pareil, on vibre au contact de l'autre ou pas. Et quelquefois, on survibre et on peut tomber amoureux de quelqu'un juste parce qu'il vibre sur les mêmes fréquences que vous, que vous vous sentiez naturellement à l'aise avec cette personne. Mais c'est histoire de fréquence. On est une source d'énergie. Il faut dire qu'on est même plus de l'énergie que du palpable. Il y a plus de vide dans nous.
Oui.
Il y a plus de...
Ça a été prouvé.
Ça a été vraiment prouvé. On est un champ organisé vibratoire. Moi, j'en suis intimement persuadé. Avant d'être un corps, on est une vibration densifiée. Le corps, c'est la densification d'une énergie organisée.
Ouais, ça me parle tellement. On l'a tous vécu, ce moment où il y a une personne face à nous et cette personne, on ne sait pas pourquoi. On ne la sent pas, quoi.
Ouais,
ça
on
passe
l'aime
pas.
Au contraire.
Ouais. Et moi, je suis persuadé... Il y a pas mal d'études qui ont été prouvées sur le cœur, sur l'organe du cœur, qui est un organe vibratoire beaucoup plus intense que le reste du corps, et que ce cœur, enfin moi c'est mes convictions personnelles et ça vise qu'à moi, mais que cette entre guillemets ouverture du corps, cet amour qu'on peut porter, et ben dans un soin, dans une thérapie, et c'est là où la bienveillance en tant que thérapeute, je pense, c'est extrêmement importante, mais la vraie bienveillance qui vient du cœur, ben nous permet aussi de soigner nos patients. Et je pense qu'un thérapeute qui a le cœur ouvert et qui en quelque sorte aime vraiment ses patients, quels qu'ils soient, il va avoir des résultats qui n'ont rien à voir avec un thérapeute qui se ferme à ça.
Exactement. En fait, quand vous êtes ouvert, en fait, il faut un certain nombre de qualités quand même pour que l'autre s'ouvre à vous. Il y a déjà un peu l'humilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se positionner en disant « je suis un cador, je sais tout, pof, 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 ça va bien se passer ». Non. quand on soigne quelqu'un, en fait, on rentre dans un processus qui est son intimité et il faut presque lui demander l'autorisation de rentrer. Il ne va pas laisser rentrer n'importe qui. Il va falloir de l'humilité pour rentrer là-dedans. Et puis la bienveillance, j'allais dire comment je symbolise la bienveillance avec mes élèves. Je leur dis, quand vous recevez quelqu'un, ou que cette personne est allongée sur votre table, dites-vous que vous avez quelque chose de sacré entre les mains. Et vous commencerez à être bienveillant et à être humble quand vous saurez que cette structure dans laquelle vous allez intervenir, c'est quelque chose de divin et de sacré. Et il y a de ce rapport-là, pour moi, quand on touche quelqu'un, il faut se dire qu'il est sacré, que c'est quelque chose, c'est une merveille de la nature, qu'on va tâcher d'intervenir, on va faire au mieux avec nos perceptions, mais on ne sera jamais parfait, puisqu'on ne l'est pas, mais qu'on va essayer d'aider au mieux et presque demander la permission à cette personne avant toute chose de rentrer dans son corps. Mais je pense que quand on perçoit le MRP de la personne accepte déjà de vous donner l'information de son déséquilibre. Donc elle accepte déjà ce rapport de soigné à soignant.
Ouais, complètement, c'est génial. Et pour ça, ce qui est pour moi quelque chose qui est indispensable, c'est d'arriver à un moment à se remettre en question en faisant peu importe comment un peu de travail sur soi pour arriver à poser l'ego. Pour moi, l'ego est vraiment le pire ennemi du thérapeute.
Exactement. Chercher à être plus fort que l'autre, ça ne veut rien dire dans nos techniques. Il faut chercher tous les jours à être plus fort que ce qu'on était la veille. Mais se comparer aux autres, c'est nul. Vous faites un travail qui est où chaque thérapeute est un trésor si justement il ne se compare pas. La seule chose qui va vous gêner vraiment dans l'épanouissement d'un bon ostéo, c'est l'ego. L'ego, l'orgueil, mal placé, ça va créer de la frustration, de la colère. Dès lors que vous êtes en frustration, en colère, c'est pas la peine de toucher quelqu'un. Vous allez plus lui faire du mal que de bien. Donc, de toute façon, il y a besoin d'un travail sur soi, d'un besoin de recherche de tranquillité pour le thérapeute. Et pour ça, il faut poser l'ego. Essayer, c'est difficile de poser l'ego.
Si c'était si facile que ça,
mais on peut être vexé d'avoir raté un traitement. Au contraire, ça vexe votre ego, mais ça va vous booster dans l'envie de faire mieux, de comprendre ce que vous n'avez pas su faire, et ça va vous aider à chercher. Et en fait, les blessures de l'ego vont vous dire, bon, ok, l'ego, on le met de côté. De toute façon, il y a des gens plus forts que moi dans ce métier. Moi, j'en connais des gens plus forts que moi, en méthode Poirier. Mais j'en ai conscience et puis je m'en fiche. Ce que je veux, c'est être meilleur que la veille.
C'est pas la compète.
C'est ça. C'est pas la comparaison. J'ai croisé des génies dans ce métier et j'en suis certain. Je les connais et puis je leur ai dit. Mais je cherche moi de mon côté à m'améliorer tout le temps. C'est la seule chose qui m'importe.
Ouais. Pour revenir un petit peu sur justement la méthode d'enseignement pour ressentir. Moi, tu connais sûrement Pierre Tricot, en tissulaire, en ostéopathie tissulaire. Lui, il fonctionne avec le ballon, sentir le MRP. Je trouve ça hyper intéressant.
C'est génial, génial. J'ai un de mes profs qui enseigne le viscéral dans notre école, Pierre, qui commence par le ballon.
Qui a suivi
l'entraînement de Tricot, l'enseignement Tricot, et qui commence par le ballon. J'adore.
Et c'est vrai que souvent dans les écoles d'ostéopathie, pour essayer de peut-être décomplexer un peu certains étudiants qui nous écoutent. J'ai l'impression que certains professeurs veulent trop qu'on sente exactement comme eux. C'est-à-dire qu'on sente exactement cette rotation latérale ou ce fonctionnement de cet os-là. Alors que parfois, comme l'exprime très bien Tricot dans ses livres, juste se permettre de ressentir son propre ressenti, c'est déjà un pas, je pense, pour avoir des perceptions. Parce qu'au final, on crée notre, malgré tout, qui consent, on crée notre propre champ de perception.
Exactement.
Personnel.
Là, tu vas créer ton propre référentiel.
Exactement. Et c'est là où la transmission est difficile parce que.
Exactement. Alors là justement, il faut être conscient que moi, je ne vais pas avoir, par exemple, les mêmes perceptions que mes autres profs. Les quatre profs avec lesquels je travaille aujourd'hui, je ne vais pas avoir les mêmes perceptions. Et en fait, quand un élève me dit, moi, je sens ça qui tourne dans ce sens-là, et que moi, je sens qu'effectivement, d'une certaine façon, ça tourne comme ça, mais il y a d'autres choses qui me paraissent plus flagrantes. Et en fait, je ne vais pas lui dire non, ce que tu sens, c'est nul, voilà ce qui se produit. Je vais dire voilà, ce que tu sens, c'est une partie de la vérité. C'est toujours, si tu as cette sensation, qu'elle est honnête, que tu as mis la main, cette information, elle est vraie. Seulement, elle est mêlée à d'autres modifications du MRP qu'il ne perçoit pas parce qu'il n'en est pas encore à ce stade de discrimination dans les mains. Il n'a pas encore cette perception. Il se passe autre chose. Et en fait, je vais lui dire, voilà, ta perception est juste, mais il y a encore d'autres choses. Regarde, ça tourne sur cet axe-là. Ce point-là, il recule. Celui-là, il avance. Celui-là, il bascule vers l'extérieur, etc. Donc, je vais essayer de perfectionner sa sensation primaire. Ouais. Je vais essayer d'amener progressivement d'autres sensations pour ceux qui sentent un MRP. Alors, nous, entre nos profs, on est de temps en temps en bisbille, parce que j'enseigne ça dans le cours, ouais, mais moi, je ne pratique pas comme ça. En fait, on a pris l'habitude, ça fait très longtemps, ça fait 25 ans qu'on enseigne ensemble, ou 23 ans qu'on enseigne ensemble. On a pris l'habitude de dire, voilà, un tel, Bruno va vous expliquer ça. Moi, je ne travaille pas tout à fait de cette façon. En fait, on admet tout ce qui... On a des discriminations sensitives qui sont différentes. On a des perceptions qui sont différentes. Et ça aide à d'abord à nous rendre plus humbles en tant que prof. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas différent, on n'est pas meilleur, on n'est pas moins bon. On est différent. Et c'est cette perception. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent au début, je suis un peu perdu parce que vous dites quatre choses différentes. Prends la notion de l'un, celle qui te parle le plus, et développe-la. Tu aborderas éventuellement le discours de l'autre une autre fois, mais prends celui qui te parle le plus, simplement, et développe-moi. Moi, j'ai un prof, Bruno, qui aborde des choses vraiment basiques. C'est très intéressant pour commencer à comprendre. Après, pour rentrer dans des détails, tu pourras aller chercher le travail de Bernard, de Pierre, le mien ou celui de Greg, pour aller plus loin. Mais au début, on a besoin de référentiels simples. Et du coup, il faut avoir la pédagogie et quelque chose d'extrêmement difficile, surtout quand il s'agit d'acquérir des sensations. Et on est formé à ça. On a, moi, j'ai des profs qui sont carrés, qui font des choses, des exercices simples, et les élèves s'y retrouvent très bien. Donc, je suis ravi de travailler avec eux. Parce que ça me simplifie beaucoup les choses.
Ouais. Puis moi, je vois que même à travers, au final, un différent concept que je vais mettre en place dans un soin, c'est-à-dire si à un moment je vais plutôt être à l'écoute de ce qui se passe par rapport à mon apprentissage de l'ostéopathie biodynamique, je vais avoir certaines perceptions avec l'apprentissage des perceptions que j'ai eues à ce moment-là, et si je me mets plus sur mon apprentissage avec le concept de Pierre Tricot, ben, je vais avoir d'autres sensations, en fait. Donc on crée vraiment notre propre champ perceptif. Exactement. Selon les concepts qu'on apprend, et le but, c'est de pouvoir le mettre en application et de pouvoir aider le patient.
Exactement.
Faut vraiment décomplexer, je pense, les gens ça. Ouais.
Alors le gros avantage de la méthode Poyer, je dirais que c'est une formation qui est cohérente, c'est-à-dire qu'en fait, on a un protocole à la fin de la quatrième année qui est applicable vraiment à tout le monde, qui est efficace sur tout le monde, qui est répétable sur tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut garder ce champ-là et introduire à partir de cette méthode, une fois qu'on a suivi un peu le protocole des chaînes, des super-chaînes, etc., du pied crânien, on peut introduire sa propre méthode si on est plus acupuncteur. On peut faire de l'acupression ou de l'acupuncture à partir de ça. Il y a des écoles d'ostéopoyer qui sont tournées vers l'acupuncture. Il y a des écoles qui sont tournées vers l'homéopathie. Et il y a des écoles qui sont tournées vers le psycho-émotionnel. Donc, en fait, Poyer a trouvé ses racines, en fait, ses élèves qui vont faire plein de branches de la méthode Poyer, plein de branches différentes, en utilisant, en greffant sur la méthode Poyer. Ça peut être du structurel, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être de l'homéopathie. Bref, on a trouvé l'arbre à trouver.
Ouais, c'est top. Voilà. C'est top. Voilà. Ok, pour couper un peu, on va enchaîner sur un autre petit jeu qui est le même principe que le premier qu'on a fait, simplement sur des thèmes différents. Si je te dis intuition ou protocole ?
D'abord protocole, après intuition. L'intuition vient quand on a assimilé la connaissance. Il faut d'abord assimiler la connaissance pour laisser parler l'intuition. Mais après, il faut laisser parler que l'intuition. Carrément.
Biomécanique ou énergétique ?
Les deux sont entremêlés.
Est-ce qu'on peut comparer ça à macroscopique et microscopique ?
En fait, il faut avoir été chez se faire manipuler un jour, quand on est ostéo, ce qui est mon cas, en shiatsu ou en acu, pour sentir qu'en fait, l'acupuncture, le traitement des méridiens, va énormément aider le traitement. Moi, je le sentis dans mon bras la première fois que j'ai été faire un massage de shiatsu. On m'a traité tout un bras, toute une épaule. Alors, c'était dans le but de débloquer ce bras et cette épaule. Et sans toucher à la biomécanique, je me suis aperçu que ça libérait complètement ma biomécanique. Donc en fait, l'énergétique, c'est quelque chose qui est de toute façon la base de la vie. Quand vous réveillez l'énergétique, vous réveillez en fait simplement un circuit électrique qui est le garant du bon fonctionnement du système. Donc en fait, l'énergétique et la biomécanique sont pour moi complètement
impliquées. Ouais, science ou philosophie ?
Au début, science, après philosophie.
Chaque chose en son temps.
Ouais. Chacun a son plaisir.
Matérialité ou spiritualité ?
Spiritualité. Ouais.
Quel est ton rapport à la spiritualité ? Comment tu l'as décrit dans ta vision des choses ?
Moi, je suis... Je crois en Dieu.
Ouais.
Je suis chrétien. Même si je ne rentre plus dans... je ne me reconnais pas dans l'Église... Qui a bercé ma jeunesse. Hein. Je suis catholique, je suis irlandais, donc catholique, j'allais dire de formation. Mais en étudiant l'histoire, je me suis dérouté du dogme catholique, mais je crois en Dieu. Intimement persuadé qu'on a un créateur, mais un créateur qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler Dame Nature, qui peut être un homme, une femme. Mais je suis certain qu'on provient d'une force
qui peut être immatérielle et en chacun de nous.
Exactement, qui nous traverse et qui peut être là. Moi, je pense que Dieu, c'est une force qui vient de l'espace, du monde intergalactique. Peut-être qu'elle l'organise, ce monde intergalactique, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est un reflet du cosmos. Ce cosmos, l'information qui vient du cosmos nous traverse. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie de l'ensemble des forces cosmologiques, en fait. Et pour moi, Dieu existe, c'est une certitude. Je n'ai même pas de doute là-dessus.
Je suis complètement d'accord avec ça. Je n'ai jamais été croyant, jamais eu une religion particulière. Mais à travers, en tout cas, la philosophie de l'ostéopathie, je me suis juste vraiment rendu compte à quel point on faisait partie d'un tout qui était cohérent et qui ne pouvait pas venir de rien, en fait. Ou alors, juste ce rien, c'est le tout. Et c'est Dieu.
Un jour, une expérience que tu peux faire. C'est quand même un truc aberrant ce que je vais te raconter. C'est que les coupeurs de feu travaillent à l'hôpital.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens qui ont le talent, qui ont l'enseignement pour ce qu'on appelle couper le feu. Moi, je l'ai vu deux fois dans ma vie, de façon spectaculaire. J'ai travaillé comme kiné au tout début de ma vie chez les Grands Brûlés. Je sais ce que c'est que le service des Grands Brûlés et c'est un cauchemar. Moi, c'est le seul endroit où j'ai dégueulé les 3 ou 4 premiers jours de mes stages quand j'étais là-bas chez les Grands Brûlés. J'ai perçu la souffrance et ces gens-là font appel à des coupeurs de feu. Il faut savoir que coupeur de feu, c'est une imposition de main avec des prières. Donc, vous êtes dans un monde, l'hôpital, qui est un monde de scientifiques, c'est un monde qui déteste ce genre d'intervention, j'allais dire la prière, l'imposition des mains, mais ça s'est tellement imposé dans l'efficacité qu'ils ont fait venir de l'extérieur des gens qui coupent.
C'est une preuve tellement juste.
Ça veut dire qu'en fait, la science n'a pas la vérité. L'homme il faut avoir le tout, maîtriser la science, l'intuition, développer son intuition. C'est très compliqué de développer son intuition dans le 21e siècle en Europe. On a tellement développé le cognitif qu'on a laissé de côté le développement de l'intuition, de la connexion avec la nature, qui avait là aussi, c'est religieux. L'empreinte pour moi chrétienne a tué notamment l'apprentissage druidique des croyances celtiques, notamment, qui enseignaient la nature, où c'était très difficile d'être très fort dans la nature. Hein. Un druide, c'était 20 ans de formation avant d'être druide, 25 ans, et c'est des connexions à la nature. Et on a perdu ça, on est resté dans un truc très cognitif. Aujourd'hui, on fait du cognitif et de la vente en médecine, et on a oublié de développer tout ce qui est intuition, tout ce qui est découverte de soi. Parce que pour se faire confiance, tout ça, il faut se découvrir un peu avant. Voilà, on a perdu ça et c'est un peu dommage. On n'est que dans le cognitif.
Et je suis complètement d'accord. Pour mettre un petit peu d'autres mots, à travers le cognitif, on est dans le faire. Et à travers l'intuitif, on est dans l'être.
C'est ça.
Et on a tellement perdu ce côté être qu'on voit d'ailleurs un petit peu revenir aujourd'hui à travers toute cette mode de la méditation, de la connaissance de soi, parce qu'on voit à quel point on était tellement dans le faire dernièrement dans la société que bah, les gens tombent tous en dépression, tombent tous en burn-out. Ouais, la crise Covid a aussi, je pense, beaucoup montré ça.
Exactement, a fait changer les choses. Mais je pense que la nature est bien faite. C'est-à-dire qu'on va avoir, on a eu 300 ans où la révolution industrielle, effectivement, les inventeurs créent quelque chose qui fonctionne. OK, mais on a oublié que l'être, c'est quelque chose qui se perçoit avant de faire un diagnostic chez une personne. Moi, je n'ai pas besoin qu'une personne soit malade pour la soigner. Je touche son crâne, je touche son corps, je sens... Mais elle n'a pas besoin d'être en souffrance. Moi, je soigne des gens qui vont très bien, que j'essaye de... J'en ai déjà sur les sportifs de haut niveau, par exemple, que je vois régulièrement pour que je manipule avant qu'ils aient mal, avant que les signes apparaissent. Je n'ai pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'on développe, quand on fait ce métier, une perception de l'autre... qui est lié à sa propre qualité de récepteur. On est des récepteurs d'information avant d'être des générateurs de... Plus on est précis dans la réception de l'information, plus on sera précis dans notre information à donner. Donc il faut un peu impérativement, quand on est ostéopathe, qu'on développe l'aspect sensitif de l'information. Il faut qu'elle nous arrive de façon précise pour pouvoir intervenir de façon précise.
Ouais, carrément. On l'a pas précisé, mais on discutait un petit peu de ça tout à l'heure. Tu es aussi passionné d'histoire.
Oui.
Ça, selon toi, ça t'a accompagné dans tes qualités de thérapeute ?
Non, c'est arrivé plus récemment. Ouais. Mais ça me passionne parce que moi, j'essaye d'étudier à mon humble niveau. Hein. Je ne suis pas archéologue, mais j'ai toujours rêvé de l'être. J'étudie l'histoire de façon, j'allais dire, passionnée depuis 2 ans. En me posant une question toute conne, parce que je suis toulousain. Et puis, il y a un truc à Toulouse, depuis 1187, il y a ce qu'on appelle les capitouls. Et les capitouls, ça m'a toujours fasciné. C'est des gens qui sont élus par les quartiers de Toulouse pour être le législateur du quartier. Donc, ils sont un certain nombre de 12 capitouls. Et en fait, ma question de tout départ, quand je m'ai fait interroger sur l'histoire, est-ce que les Visigoths, c'est une tribu qui a envahi l'Aquitaine jusqu'au 4e siècle avant Jésus-Christ. Attends, je te dis des bêtises. Jusqu'au 4e siècle. Au 3e siècle après Jésus-Christ. Ils ont été chassés par les Francs après le 3e siècle. Et je voulais savoir si c'était les Capitouls étaient quelque chose d'inspiration visigothique. Première question sur Internet. Et 2 ans après, j'ai exploré toutes les migrations des Ostrogoths, des Visigoths, des Vandales, des Suèves, de l'Empire romain, avant les Grecs. Puis j'ai fini par m'intéresser aux Sumériens, aux Acadiens, aux Amorites, etc.
T'as passé quelques milliers d'heures.
Voilà. et grâce à YouTube.
Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure.
Abonnez-vous.
Top. Est-ce que, pareil, on l'a rapidement abordé ce matin, dans tes séances, parce que malgré tout, tu brasses pas mal d'informations dans tes séances, quelle place a l'émotionnel avec tes patients ?
Alors l'émotionnel, je sais que c'est présent, mais quelque part, c'est moi qui fais un blocage. C'est-à-dire que je n'ose pas intervenir. J'ai beaucoup de copains qui le font. Hein.
Bien sûr.
Je pousse beaucoup mes élèves à aller faire, par exemple, la somato chez Odile, après la méthode Poyer. Parce que pour moi c'est très complémentaire, beaucoup de gens aspirent à ça, à comprendre comment l'émotion peut générer un blocage et à quel endroit et comment ça peut se libérer en prenant conscience du blocage émotionnel à l'origine. Il se trouve que moi j'ai une mauvaise expérience dans ce domaine quand j'étais beaucoup plus jeune et que je n'ose pas aborder, pour moi aborder l'émotionnel, il faut être formé à la psychothérapie. Pour moi, c'est un enseignement qui est un enseignement en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas simple d'être psychothérapeute. Il faut faire le ménage un peu en soi, avoir compris les choses un peu en soi pour pour pas faire de bêtises dans ce domaine-là. Et puis, il y a toujours ce qui a été transgénérationnel. C'est-à-dire que ce qui me gêne, c'est que dans l'émotionnel, on peut dire, voilà, et quelqu'un, il y a un certain nombre de choses qui vont être d'ordre physique, qui vont être les chutes, tout ce qui va être physique, qui va toucher la structure. Il y a effectivement, il va y avoir l'émotionnel qui va bloquer la structure. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a le transgénérationnel. Et le transgénérationnel, c'est emmerdant, c'est qu'on n'est pas au courant toujours de l'histoire de l'arrière-grand-mère qui a subi tel traumatisme et qui a transmis dans sa lignée des blocages qui seront illisibles au milieu de l'émotionnel. Et en fait, c'est-à-dire que c'est encore une autre couche lésionnelle qui va venir d'ailleurs, qui va venir de votre lignée. Et en fait, je me dis que chercher à rentrer dans cette intimité de l'émotionnel, c'est aussi rentrer dans le transgénérationnel. Et encore là, ça me fait encore plus peur.
Ouais, je
déjà, l'émotionnel me fait peur, mais déjà, rajouter là-dessus le transgénérationnel...
Ouais.
Rend la chose encore plus compliquée.
Si des personnes sont intéressées, moi je me suis formé auprès de Pascal Ancelin à travers l'ostéopathie biodynamique où il a énormément exploré le chamanisme et il a fait énormément de liens avec toutes les libérations émotionnelles. Il propose des stages qui sont vraiment très intéressants.
Et tu m'avais dit d'ailleurs que tu avais un peu découvert l'enseignement de Somato,
ouais,
d'Odile, et que ça t'avait fait penser énormément à Ancelin et à son enseignement.
C'est ce dont j'avais parlé à travers la méthode Poyer, c'est Odile.
Odile Baudonnel.
Odile Baudonnel, qui
Pierre Camille Vernet, surtout Pierre Camille Vernet qui a développé ça au départ.
D'accord, top, c'est hyper intéressant. Ok, merci. Est-ce que il y a un sujet qui est assez intéressant dont on se confronte pas toujours et on parle pas toujours en ostéopathie, c'est vraiment la réaction et l'adaptation face à l'échec thérapeutique. Comment tu t'organises, toi, au final, quand avec tes patients ça fonctionne pas, tu rediriges, tu as des professionnels
exactement
de santé?
Alors j'essaie de flairer en chaque personne quel est le thérapeute qui serait bien que cette personne rencontre. Alors ça peut être, j'ai un très bon acupuncteur qui s'appelle Sébastien Moton, qui est à Sanary, chez qui j'envoie beaucoup de monde. J'ai une fille qui fait, Sophie Carniaux, qui fait du shiatsu et de la constellation familiale, quand je sens que c'est possible. Mais ça, sinon, ça peut être un très bon podologue, ça peut être un très bon homéopathe. Voilà, j'ai quelques adresses de gens avec lesquels je travaille de façon régulière, que j'envoie compléter, ou même quand je prends un échec, je dis ce qui m'a l'air, à mon avis, ce qui a l'air de vous convenir, ce serait plutôt d'aller voir telle ou telle personne. Et alors, ça peut être un rééducateur en orthopsie, ça peut être un acupuncteur, un podologue, mais j'ai toute une clinique, en fait, ça sert à ça, les cliniques, de gens que je fais travailler parce que justement, j'y arrive pas.
Ouais, c'est hyper important de travailler en pluridisciplinarité.
Exactement.
À ce moment-là.
Et c'est une preuve d'humilité.
Carrément.
C'est une preuve.
On peut pas tout soigner,
exactement.
On peut pas convenir à tout le monde.
On n'est pas Dieu le Père. On essaye d'aider les gens, mais quelquefois on n'y arrive pas, quelquefois on est insuffisant, quelquefois on est complètement à côté de la plaque. Et il faut essayer d'envoyer chez d'autres spécialistes et pas hésiter à faire connaître. Et puis moi, j'adore connaître des gens qui font de l'acu. Ben, mon acu, chez qui j'envoie plein de gens, il me suit à l'année. Cette fille qui fait du shiatsu, elle me suit à l'année. Voilà, je me fais suivre chez eux. Je sors dans mon coin.
Ouais, d'échanger les soins aussi avec eux, c'est
exactement
hyper intéressant.
J'essaye d'échanger et j'essaye d'avoir des gens qui sont bons en podologie, bons dans tel ou tel truc. Et voilà. On travaille en clinique et on travaille ensemble.
Yes. Et sur tout le côté médical, parce qu'à travers la méthode Poyer, il n'y a pas forcément d'informations sur le caractère médical, de tout ce qui peut être drapeau rouge à réorienter. Tu vois, comment tu gères un peu tout ça?
Comment ça? Je ne comprends pas.
Imaginons, comme les patients viennent te voir en première intention, parfois avec des douleurs très aiguës, comment est-ce que tu vas savoir si cette personne-là, il faut par exemple la réorienter une fois aux urgences?
Ah, exactement. Alors là, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les 30 ans d'expérience.
Ouais.
Ce qui va te mettre la puce à l'oreille, c'est que tu vas voir le teint de la personne, tu vas voir des petites choses. Tu vas sentir la qualité de son MRP, tu vas sentir que c'est fuyant, que c'est fragile, que les signes que va te donner la personne. Moi, ça m'arrive, une fois, je soignais il y a quelques années une petite jeune. Et je passe ma main sur son ventre et je sens une poche qui ne devrait pas être là, juste en palpant à la surface. Et elle s'est fait opérer le soir même à l'hôpital de Fréjus. Je lui ai dit, c'est directement les urgences, alors qu'elle n'avait pas de signe incroyable.
Ouais.
Mais ils l'ont opéré, ils lui ont enlevé une énorme poche qu'elle avait dans le bide et qui était heureusement pas du tout maligne, qui était un truc assez bizarre comme expérience d'ailleurs. Et en fait, ouais, aujourd'hui, justement, je suis méfiant. Je regarde différentes petites choses. Quand l'affaire me paraît être pas pour moi, j'hésite pas.
Ouais. Il faut pas hésiter.
J'envoie aux urgences ou j'envoie chez le médecin, ouais, examen, etc. Il faut être un honnête, un humble et puis se dire qu'on ne sait pas tout, et puis se dire que la médecine explore des choses qu'on est incapable de voir.
Ouais, et la médecine est extraordinaire pour soigner des choses graves, et là où nous, on n'a pas du tout notre place.
Nous, on fait, à côté de ça, on fait de la bobologie.
Hein. Exactement.
Il faut être conscient.
C'est là où il y a eu quand même des belles avancées sur les écoles d'ostéopathie, par contre, qui aujourd'hui forment extrêmement bien sur le côté médical, et ça, c'est chouette.
Il faut le dire aussi. Savoir reconnaître les signes, savoir écouter les signes, et puis savoir faire, savoir dire, là, on atteint les limites. Moi, par exemple, j'ai une dame hier qui est arrivée avec un problème de genou. Et son genou, je l'ai réétudié, je l'ai remboîté, et puis je lui dis, madame, il va falloir explorer vos ménisques. Vos ménisques, c'est de l'ordre de l'anatomie, c'est pas pour moi, c'est de l'ordre de la chirurgie. Il va falloir faire une arthroscopie. Voilà, il faut être conscient de ses limites, et puis faire au mieux pour ses patients.
Ouais.
Quand vous êtes honnête avec vous, vous faites au mieux pour vos patients. Moi, j'ai la confiance de Toubib, j'ai la confiance de pas mal de Toubib, de chirurgiens, j'ai la confiance de radiologues, parce que ça fait 30 ans que je suis ici, j'ai la confiance de tout un panel de patients qui savent que je ne suis pas fou, je redis
ce que je... Ouais. Top. Tu as une spécialisation que peu de personnes font, c'est l'ophtalmologie, à travers la méthode Poyer.
Ouais. J'ai développé l'ophtalmologie il y a déjà 15 ans, parce que c'était un domaine pas du tout exploré, donc en ostéopathie.
Ouais.
J'ai enseigné l'ophtalmologie dans pas mal d'endroits, dans pas mal d'écoles. Je l'enseigne beaucoup chez moi, dans les écoles que j'anime. C'est le moyen d'explorer le crâne. En fait, j'adore le crâne, donc j'aime faire comprendre comment marche le crâne, comment marche la mastication, qu'est-ce qui est en jeu quand on mastique, qu'est-ce qui est en jeu quand on regarde, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que ça fait quand j'ai un problème à l'œil, qu'est-ce que ça fait. Voilà, j'aime explorer tout ça, comprendre comment ça s'est fait, pour comprendre comment ça marche et pour comprendre comment ça dysfonctionne. C'est ça qui m'intéresse. Et l'ophtalmologie fait partie des champs que j'ai explorés au même titre que la déglutition.
En fait, toute la sphère ORL
exactement.
Et la TM également.
La face,
de toute façon, toute la face fonctionne énormément en synergie.
Tout ça. Et qu'est-ce que j'ai vu que quand j'ai amélioré la mastication, la TM, la déglutition, l'ophtalmo, que je résolvais à moi énormément, par exemple, de problèmes de cervicalgie.
Ouais, carrément.
En direct, sans y toucher. Juste en travaillant ces choses-là, pof, tout un tas de choses qui trouvent leur place, qui étaient tordues dans un sens, dans l'autre. Là, c'est vraiment des choses qui sont l'ATM et l'ophtalmo qui agissent directement sur le rachis et qui sont directement responsables de plein de tensions anormales du rachis. Et c'est aussi ce qui m'a intéressé dans l'ophtalmologie, par exemple. J'adore l'ophtalmo, j'adore le crânien, en fait. Là, je travaille beaucoup sur les bandes de contraintes, c'est-à-dire la structure qui va donner la dure mère intracrânienne. Quand on parle de la dure mère, par exemple, si on prend la faux du cerveau, la faux du cerveau chez le nouveau-né, ça n'existe pas. La faux du cerveau, il y a deux bandes de contraintes qui va fonder ce que va être la faux du cerveau. Et en fait, moi, je travaille sur ces bandes de contraintes. Et donc, tout ce qui est intracrânien, tout ce qui est ORL, tout ce qui est ophtalmo, tout ce qui est déglutition va énormément m'intéresser.
Et pour travailler ces bandes de contraintes, c'est toujours pareil, tu n'es pas sur le crâne, c'est que du test.
Alors, je travaille sur le crâne en biodynamie.
Je fais
beaucoup de biodynamie sur les bandes de contraintes. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher.
Ouais.
Mais par contre, on peut travailler directement en étant en projection sur les bandes de contraintes. Alors aujourd'hui, je suis en train de faire des liens entre les bandes de contraintes et les tensions viscérales. Et ce qui m'enchante, parce que je gagne un temps fou.
Ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, si certains ostéopathes veulent se former en ophtalmologie, il me semble que tu proposes cette formation avec Grégory Planet.
Voilà, on va organiser une fois par an un stage. Vous trouverez l'information sur un site qui s'appelle Global Thinking, qui est animé par Grégory Planet. Et en fait, une fois par an, on va ouvrir les stages de Poyer qu'on organise et qu'on va ouvrir à tout le monde pour l'ophtalmologie.
Ouais. C'est pas obligatoire d'avoir fait Poyer auparavant.
Non, non.
C'est accessible quand même.
C'est accessible quand même.
Ok, top. Est-ce que là, simplement, tu as en tête de façon intuitive peut-être 2-3 rapidement cas cliniques qui t'ont vraiment marqué, où il s'est vraiment passé quelque chose, que ce soit en ophtalmologie ou autre?
Alors, j'ai rendu une fois la vue à un aveugle, à une femme aveugle.
Qui était aveugle depuis longtemps, depuis
alors, depuis 2 ans. Et en fait, j'ai retrouvé pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une dame qui est venue me voir avec une cécité complète de l'œil droit, une cécité quasi complète de l'œil gauche, qui est une danseuse professionnelle, qui avait dû interrompre sa carrière à cause de cette cécité, Et en fait, j'ai découvert le poteau rose quand je l'ai soigné. C'est qu'en fait, elle avait subi l'ablation de dents de sagesse, de quatre dents de sagesse, deux, trois mois avant de commencer à être... Mais elle n'avait pas fait le lien entre cette opération et le début de sa cécité, puisqu'il s'était passé entre deux et quatre mois, je ne sais plus, entre cette opération et le début de sa cécité. Mmh. Et en fait... Ce que j'ai découvert chez elle, c'est que ben en fait, son maxillaire, il travaille avec des écarteurs. Il faut savoir que les anesthésies, dans l'anesthésie générale, quand on vous inocule, vous avez un produit qui va empêcher la contraction des muscles. Donc la bouche est grande ouverte. Mmh. Vous n'avez aucun frein à l'ouverture. On vous colle des écarteurs pour pouvoir opérer dans la bouche pendant, je ne sais, 2, 3 heures, 4 heures quelquefois, pour emblayer les 4 dents de sagesse. Et en fait, ce qui s'était produit chez cette jeune femme, c'est qu'elle avait une ascension des deux maxillaires dans l'orbite. Donc la fronto-maxillaire était très plus qu'impactée. Le frontal est rentré dans le maxillaire. Et en fait, on avait le maxillaire était tellement remonté dans le frontal qu'il a fermé la fente sphéno-maxillaire dans les deux yeux. À la base de l'orbite, vous avez ce qu'on appelle la fissure orbitaire supérieure qui est au fond, et aujourd'hui la fissure orbitaire inférieure qu'on a fait la fente sphéno-maxillaire autrefois, qui était totalement fermée chez cette fille des deux côtés.
Avec le passage du nerf optique.
Alors non, c'est pas le nerf optique qui passe dedans, c'est des artères qui nourrissent l'œil.
D'accord.
Et en fait, le nerf optique, il passe par le canal optique, c'est un trou au-dessus, qui est dans la petite aile. Et là, en fait, il a fallu que je travaille toute la structure en local et que je refasse redescendre le maxillaire. Et elle a recouvré la vue dans la séance. Et là, ça a été un électrochoc total. Son mec, pour elle, pour moi, quand elle m'a dit « je vois »,
voilà.
L'électrochoc a été total. Après, j'ai eu des cas dont je t'ai parlé un peu.
Tu sais si elle voit toujours aujourd'hui?
En fait, j'ai perdu de vue assez rapidement parce qu'ils ont déménagé. Okay. Je les ai perdus de vue. Je l'ai revu une fois ou deux. Mais tout allait bien, en fait. Ouais. Elle avait vraiment recouvré la vue, donc j'étais plus inquiet. Une fois, j'ai eu une petite jeune fille dont je t'ai un peu parlé tout à l'heure, qui avait des drôles de signes. Elle était en train, elle avait 15 ans, et elle était en train de choper une voix d'homme, d'avoir une poussée de poils, une poussée du clitoris. Elle était en train, on se demandait, sa mère me l'a... m'a appelé au téléphone, m'a parlé longuement parce qu'elle ne voulait pas que je parle de cette chose-là. Merci. Mais elle est très inquiète pour sa fille qui était en train de changer depuis quelque temps brutalement. Et c'est cette fille que j'ai découvert une petite poche que j'ai fait enlever dans la journée. C'est des gens qui viennent de loin, qui me font confiance que je sois depuis longtemps. Et du coup, ils avaient ce problème-là. Et j'ai dit, voilà, là, une poche, quelque chose dans le bide que je n'aime pas. Vous me faites enlever. Et j'avais déjà ma petite idée sur ce que ça pouvait être, cette petite poche. Et en fait, elle se fait enlever cette petite poche. Inquiétude, on envoie tout ça à la napate. C'est le résultat de cette ponction, on enlève la poche, etc. Elle me rappelle le soir même de l'opération. Je l'avais vue le matin, c'était un samedi. Et elle s'est fait opérer le samedi après-midi, en fin de journée. Okay. Et elle me rappelle en disant, l'ablation s'est bien passée, ils n'ont rien trouvé d'incroyable. Alors je lui dis, voilà, il faut que je te revoie lundi. Toi, ta fille, ton mari, je vais vous revoir tous les trois lundi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, cette nana avait son frère jumeau dans le ventre. Et son frère jumeau commençait à distiller lentement à travers la poche de la poche
de la testostérone
dans laquelle elle était enfermée, ses hormones mâles.
Ah ouais.
Et en fait, elle était en train d'avoir une poussée du clitoris, une poussée des poils, une voix qui commençait à muer. Et en fait, je lui dis, tout va disparaître. T'en fais pas, on a trouvé le truc. T'avais ton petit frère en toi. Et ça m'a pris comme tout le week-end, ça m'a travaillé tout le week-end. Et quand je l'ai revu le lundi, je lui ai expliqué, tu t'en fais pas, c'est définitivement terminé, ton histoire. Tout va redevenir à la normale, ça va prendre quelques mois. Et effectivement, aujourd'hui, cette gamine, je la revois, elle vit en Belgique, elle est flûtiste professionnelle en Belgique, et je revois elle et toute sa famille au moins une fois par an, une ou deux fois par an. Je les revois, ils viennent me voir. Et en fait, on a réévoqué ce souvenir entre nous, et à l'époque, j'avais même eu un petit message d'un nommé qui est très connu, qui s'appelle Grand Georges, qui suivait cette fille, et puis qui m'a demandé comment j'avais trouvé percuter cette poche d'eau que lui n'avait pas vue. Donc voilà, c'était un des câbles.
Ouais, c'est incroyable. Ah ouais. Et du coup, à l'anapath, ils ont confirmé.
Ils ont confirmé. C'était, voilà, c'était un, le reste d'un fœtus.
Ok. Masculin, incroyable.
Qu'elle avait dans le ventre.
Sacrée histoire. Mm-hmm. Ok. Top. Mini aparté, parce que ça fait déjà peut-être une heure et demie qu'on parle. Tu m'as parlé pas mal d'homéopathie tout à l'heure, quelque chose qui maintenant est plus remboursé et très controversé. Toi, tu bosses beaucoup avec.
Ouais.
C'est de l'information aussi.
Ouais, c'est ça. On travaille, en fait, on est, pour moi, la médecine, surtout préventive, pas la médecine où on est déjà dans la pathologie, mais la médecine préventive dans l'avenir sera une médecine d'information. C'est-à-dire qu'en fait, on s'approche vers un système où on va générer de l'information et le corps va réagir à cette information. Quand on aura dompté et développé suffisamment cette capacité à générer de l'information et à s'en servir pour soigner les gens, on aura beaucoup moins de pathologies à soigner parce qu'on saura traiter en amont par de l'information. Et pour moi, l'homéopathie, contrairement à ce qu'on dit, c'est sur-efficace quand on sait bien s'en servir.
Ouais.
L'homéopathie, c'est de l'information. Et en fait, quand vous générez, moi, je fais porter des produits homéopathiques à mes patients. Soit je les fais ingérer des granules, soit je fais porter des patchs homéopathiques. Et on génère de l'information et on génère de l'information qui nous permettent de soigner des problèmes de comportement, qui nous permettent de soigner des choses qui sont inaccessibles, comme par exemple la toux chronique, quand vous avez des gens qui ont une quinte de toux de façon régulière, chronique, qui leur pourrissent la vie. Vous n'avez pas aucun résultat, aucune chance d'avoir ça en médecine classique, en médecine allopathique, d'y arriver. En ostéo, en acu, vous n'y arriverez pas. La seule chose qui puisse vous sortir de là, c'est l'homéopathie. Donc effectivement, l'homéopathie comme s'inscrit dans toute une panoplie de techniques à maîtriser. Alors c'est très long, l'homéopathie, on peut y passer une vie à être bon homéopathe.
Expertise
mais voilà, ça fait partie, quand vous avez affaire à un très grand homéopathe, quand on parlait de Grand Georges par exemple, Grand Georges, il était appelé aux urgences pour sauver des enfants. Il était appelé aux urgences et c'était un homéopathe, il soignait qu'avec des produits homéo. Et il était appelé aux urgences avec des enfants entre la vie et la mort. Donc l'homéopathie, ça dépend à qui vous avez affaire, mais quand vous avez affaire à un très grand homéopathe, quand vous avez affaire à un très grand acupuncteur, quand vous avez affaire à des mecs qui vous apercevez que l'homéopathie, c'est surefficace.
Ouais.
C'est surefficace.
Ouais, c'est super intéressant. Je pense que dans l'avenir, je m'intéresserai davantage à l'homéopathie.
Ouais, non, mais l'homéo, vous nettoie le terrain, par exemple.
Ouais,
qu'est-ce qu'il faut savoir ? Vous êtes tous vaccinés, vous avez tous subi des anesthésies générales, vous avez tous chopé le Covid. Tout ça, ça a créé, ça a activé, par exemple, on soupçonne fort le Covid. Alors ça, c'est vraiment, je ne parle que pour moi.
Bien sûr.
Mais le Covid réactive notamment les herpès. Et vous avez des gens qui disent « je ne me sors pas d'une fatigue chronique ou j'ai des névrites qui sont apparues depuis le Covid ». Et quand vous étudiez en homéopathie les herpès, vous apercevez qu'ils sont suractifs. Et que quand vous arrivez à trouver le moyen de calmer un Epstein-Barr virus qui est suractif, et ben la personne, l'Epstein-Barr virus et la mononucléose, c'est quelque chose, quand il est actif, vous êtes toujours fatigué. Et ben en fait, les Covid longs avec de la fatigue, la plupart du temps, pour moi, c'est un réveil de l'Epstein-Barr virus qu'il faut calmer par en homéopathie. Et la personne retrouve sa pêche d'antan quand on calme cette activité.
C'est vraiment intéressant. Top. Une dernière petite question avant qu'on clôture. Est-ce que toi, tu as eu des inspirations, bon, sans parler évidemment de la méthode Pouillet, des inspirations personnelles à travers peut-être des bouquins, à travers peut-être des films, que sais-je, des audios qui t'ont vraiment accompagné dans ton chemin d'ostéopathe, de thérapeute?
Pas vraiment, parce que ce que je te disais tout à l'heure, moi je forme des ostéos, je les regarde travailler, et je m'inspire d'eux. Je forme tous les thérapeutes que j'ai pu croiser. Alors par exemple, je me suis intéressé à Montserrat Gascon. Montserrat Gascon, c'est une espagnole, une infirmière espagnole, qui est spécialisée sur le péricarde et sur le cœur. J'ai été écouté une de ses conférences et j'ai eu la chance de me mettre à la tête, au crâne du sujet qu'elle était en train de traiter. Et j'ai pu m'apercevoir, en mettant mes mains sur le crâne de la personne qu'elle était en train de traiter, dont elle était en train de soigner le cœur, de tout ce que ça faisait. Et en fait, j'ai compris que tant que je ne maîtriserai pas le péricarde, il y a tout un champ en ostéopathie de choses que je n'aurais... Et en fait, le problème, c'est que... oui, alors il y a des choses qui m'ont appris, plein de bouquins qui m'ont appris...
Un bouquin ou deux à nous citer ?
Non, parce qu'en fait, c'est jamais... je ne vais jamais choper une philosophie. Par contre, je vais aller chercher... dans tel bouquin, une petite partie de tel truc, d'une notion que j'avais pas dans tel bouquin, qui va m'aider à comprendre comment ça fonctionne. Là, un bouquin que j'ai prêté, je crois que je l'ai plus, c'est sur l'endocrinologie, et c'est une canadienne qui a écrit un petit fascicule relativement fin, petit, pour l'endocrino, c'est pas mal, où elle explique l'endocrino. Il faudrait que je retrouve ce livre. Je crois que je l'ai prêté, qu'on me l'a jamais rendu. Et il va falloir que je fouille dans ma bibliothèque pour voir si je le retrouve, parce que j'aimerais réécrire mon cours d'endocrino pour l'école. Ouais. Et elle a fait un bouquin classique. Mais par exemple, quand j'ai pris mon bouquin d'ophtalmologie, il est là, ophtalmo et ostéologie. Ostéopathie, et je me suis grandement inspiré de l'anatomie inspiré de ce livre.
Ouais, t'as bouffé l'anatomie.
Exactement. L'anatomie, j'en ai bouffé, mais alors.
Jour et nuit.
Oui, j'en ai bouffé jusqu'à plus avoir faim.
C'est inscrit dans tes gènes.
Dans l'anatomie. En fait, dans ma philosophie, de plus vous êtes précis en anatomie, plus vous êtes capable de projeter de façon précise. Une structure qu'on ne peut pas toucher. Vous prenez par exemple la selle turcique. Vous savez où elle est, mais vous ne savez pas de comment elle est, ce qu'il y a dans son entourage, comment sont tissus, comment sont tendus les différents faisceaux de la dure-mère. Plus vous avez une vision précise, anatomique, maîtrisée, connue dans votre main, plus vous allez pouvoir projeter précisément la structure, et plus ça va être facile de travailler dessus.
Ouais, plus l'intention va être précise.
Voilà, exactement. Plus vous avez des notions vagues, moins ça va être précis, moins ça va être... voilà, c'est... Ouais, c'est pour ça que je cherche de l'anatomie.
Je pense c'est une belle philosophie.
Pour comprendre comment c'est fait, pour comprendre comment ça marche, pour comprendre comment ça dysfonctionne. Ça, c'est un peu mon principe de base.
Carrément, trop cool. Bah écoute, Guillaume, merci beaucoup.
Bah, merci à toi, Baptiste. Merci d'être venu jusqu'à chez moi. Et puis...
De ta bienveillance, de ta sympathie. C'est
très intéressant de partager avec toi. C'était fascinant.
Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin ? Ce que tu souhaites dire ?
Oh, abonnez-vous.
J'adore.
Non, abonnez-vous, c'est important. Il fait des choses importantes. C'est voilà, entre Greg, tout ça, qui font découvrir, que ce soit des techniques, je vois ça en vidéo sur YouTube, vous apprendrez des choses, que ce soit des techniques, que ce soit découvrir le passé de certains ostéos qui ont changé quelquefois, pour certains, le monde de l'enseignement en France et en Europe. C'est vachement intéressant de savoir, c'est les premiers qui s'en occupent, il faut les aider, donc en s'abonnant à leur chaîne. Et puis vous allez entendre et découvrir le point de vue de tas d'ostéos et de thérapeutes différents qui vont énormément vous enrichir, je pense.
Ouais, carrément. Ben, moi, c'est bien pour ça que je fais ça, parce que ça m'apprend énormément.
C'est une vision juste des choses, et c'est important que tu fasses ça.
Merci beaucoup, Guillaume.
Ouais, merci, Baptiste.
Passez une super journée.
Super. Ouais, je suis ravi.
C'est tout pour aujourd'hui dans Soignant Soigné. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette conversation t'a apporté autant qu'à moi. Si tu as apprécié notre exploration, je t'invite chaleureusement à me soutenir en laissant une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, accompagnée d'un commentaire si tu le souhaites. Ton soutien m'aide énormément pour faire connaître davantage ces discussions enrichissantes et convier des invités toujours aussi passionnants. Je tiens également à remercier Arnaud, qui s'occupe maintenant du montage son du podcast, cela me fait gagner beaucoup de temps. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes proches et sur les réseaux sociaux. Ton engagement contribue à faire grandir cette communauté passionnée autour de la santé et du bien-être. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles découvertes inspirantes.